Nous sommes le mardi 13 septembre. Bonne journée à toutes et à tous.
C'est un souvenir inoubliable que j'emporterai avec moi. Et peu importe, on aurait pu attendre 10 heures. C'est quelque chose que j'étais déterminé à faire. J'ai attendu autant que je devais attendre.
Voilà, ils ont attendu, malgré la fraîcheur de la nuit, à l'image de cet habitant d'Édimbourg. Des milliers comme lui, ils sont à venir se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II avant son départ pour Londres ce soir. Les premiers arrivés ont d'ailleurs eu droit à une surprise, puisque le roi était là lui aussi. Reportage des débuts de ce journal. Ils seront encore plus nombreux à Londres. 750 000 personnes prévoient de rendre hommage à la souveraine, dont le cercueil sera exposé à Westminster. Il y a déjà 20 heures d'attente. Côté sécurité, tout est extrêmement verrouillé. Anaïs Cordoba va nous raconter ça. Et puis nous irons en Suède, vous disais-je, où l'extrême droite réalise une percée historique avec des scores dépassant les 20%. Dominique Régnier de la Fondapol sera notre invité. D'ailleurs, juste après ce journal. Journal présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un dernier adieu avant le départ. Les Écossais continuent de défiler à l'intérieur de la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. C'est là que repose momentanément la dépouille de la reine Elisabeth II. Plus de 30 000 personnes ont fait le déplacement. 1,5 km de file d'attente avant de pouvoir s'approcher du cercueil et se recueillir enfin. Moment aussi important qu'inoubliable pour beaucoup. Les premiers à entrer ont eu même la surprise de tomber nez à nez avec le roi Charles III en personne. Reportage de votre envoyé spécial Thibault Hue.
Un voile noir en dentelle sur le visage, Marie essuie ses joues, maculées de larmes. Les portes de la cathédrale Saint-Gilles derrière elle, cette habitante d'Édimbourg vient de se recueillir à quelques mètres seulement de Charles III.
On a été très chanceux d'entrer à ce moment-là. Quand on est arrivé au cercueil de la reine, c'était très émouvant. Ils étaient là, tout autour du cercueil, ils sont arrivés juste avant nous. Dire au revoir à la reine, c'était important pour moi.
Comme elle, quelques chanceux ont croisé la famille royale devant le corps d'Elisabeth II. Un moment unique qu'Andrew n'oubliera jamais. La tête entre les mains, il n'en revient toujours pas.
C'est une fois dans la vie, ce genre de situation. C'est un souvenir inoubliable que j'emporterai avec moi. Et peu importe, on aurait pu attendre 10 heures. C'est quelque chose que j'étais déterminé à faire. J'ai attendu autant que je devais attendre.
Yvonne, elle a fait 3 heures de voiture, patienté 7 heures dans la rue adossée à des barrières en métal pour apercevoir le cercueil noir avec posé dessus la couronne royale de l'Écosse en or massif.
C'était très serein, paisible. On a rendu hommage et on a juste pensé à toutes ces années qu'elle a passées sur le trône.
Et pour vivre ce moment privilégié, les Écossais n'ont plus que quelques heures. Le corps de la reine quittera la ville pour Londres en fin d'après-midi. À Édimbourg, Thibault Hue, Europe 1.
Alors, on vient de l'entendre. Alors, le convoi funéraire est attendu dans la soirée au palais de Buckingham.
Et première étape avant un transfert demain dans le grand hall d'un autre palais, celui de Westminster. Le cercueil d'Elisabeth II reposera pour 5 jours jusqu'aux funérailles prévues lundi. Le grand public pourra saluer une dernière fois la reine. Au moins 750 000 personnes sont attendues dans la capitale britannique. C'est aussi un immense défi en matière de sécurité. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.
C'est un raz-de-marée humain qui s'apprête à déferler sur Londres. Au moins 750 000 visiteurs, 8 km de queue et jusqu'à 20 heures d'attente pour se recueillir devant le cercueil de la reine. À la veille de cet événement sans commune mesure, Mark Rowley, le chef de la Metropolitan Police, a tenté de rassurer.
Nous préparons cet événement depuis plusieurs années. Des gens très compétents ont mis beaucoup d'efforts dans cette préparation. Et moi-même, dans mes postes précédents à la Metropolitan Police, j'ai participé à ces préparatifs.
La Metropolitan Police se tient en alerte contre d'éventuelles menaces terroristes, mais aussi de potentielles manifestations sauvages. 10 000 policiers vont être déployés dans les prochains jours et 1 500 soldats se tiennent prêts à intervenir pour contenir les foules. Des consignes très strictes ont été données au public. Toute personne ivre ou au comportement antisocial sera éjectée de la queue pour accéder au cercueil de la reine. Les t-shirts aux slogans politiques sont aussi interdits. Les autorités n'écartent pas non plus le risque d'un trop-plein de monde dans les rues de Londres. Si c'est le cas, les entreprises ferroviaires devront dissuader leurs passagers de se rendre dans la capitale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Il est 7h04 sur Europe 1. C'est une élection scrutée de très près dans toute l'Europe. En Suède, la droite alliée aux populistes est en passe de remporter les élections législatives.
Les résultats définitifs seront publiés demain. Les premières projections donnent une courte avance au bloc de droite avec un siège d'écart sur la gauche, mais le grand vainqueur, eh bien, ce sont les démocrates de Suède. C'est le nom de ce parti d'extrême droite qui pourrait sortir renforcé de ce scrutin avec plus de 20% des voix. Sa campagne menée sur le thème de l'immigration incontrôlée et responsable de la hausse de la criminalité a fini par trouver un écho dans une société suédoise fragilisée. Reportage de notre envoyé spécial à Stockholm, Alexandre Chauveau.
Dans le taxi d'Ahmed, sa carte professionnelle fraîchement obtenue il y a 6 mois trône fièrement sur le tableau de bord. Ce Syrien de 48 ans a fui Alep en 2015 pour trouver refuge en Suède.
Les Suédois sont vraiment bons. Quand on compare aux autres pays, ils sont vraiment accueillants.
Cet ancien cuisinier a suivi de loin les élections, mais il se dit inquiet par la percée historique du parti de Jimmy Åkesson.
Il déteste tous les étrangers et déteste l'islam. Il ne comprend pas ce qu'est l'islam.
Dans le centre-ville, les dernières législatives alimentent forcément les conversations en terrasse. Jonas, animateur périscolaire, refuse de nous dire pour qui il a voté, mais s'attendait à ce résultat.
On l'avait vu venir. À chaque élection, le parti progresse, donc je ne suis pas vraiment surpris. Vous avez des gens qui sont déçus de ce qu'est devenu la Suède ces dernières années.
Ici en Suède, l'immigration et l'insécurité ont été au cœur de la campagne. Il faut dire que l'explosion du nombre de fusillades ces dernières années s'est invitée dans le débat. Rien que cette année, 48 personnes ont été tuées par balle dans un pays qui ne compte que 10 millions d'habitants. Laïf, cheveux longs et grisonnants, a vu son pays changer depuis quelques années.
Il y a environ 60 à 70 zones où les policiers ne peuvent plus aller. C'est nouveau dans ce pays. On n'avait jamais connu ça avant.
Depuis 2010, les démocrates de Suède ont quasiment quadruplé leur nombre de voix. Ils devraient être dès demain le deuxième parti du pays et la première force de droite du royaume. Stockholm, Alexandre Chauveau, Europe 1.
Retour en France, la Gironde continue de payer le prix de la sécheresse. Un nouvel incendie a déjà ravagé près de 1500 hectares dans le Médoc.
Incendie a priori d'origine criminelle. Selon les gendarmes, plus de 300 pompiers luttent depuis hier après-midi contre les flammes à Somos, près de Lacanau. Situation qualifiée de délicate par les secours qui ont fait évacuer une partie du village.
Et puis, deuxième journée de la Ligue des champions de football. Marseille reçoit Francfort ce soir.
Et défaite interdite pour l'OM, déjà battue la semaine dernière à Tottenham. Les Marseillais sont dos au mur, Jean-François Pérez.
Oui, c'est la cruelle loi de la plus prestigieuse des compétitions. L'OM a souvent fait mieux que jeu égal face à un cador du foot anglais, mais au final 2-0 pour Tottenham et toute la pression qui bascule sur ce match face à Francfort, le premier de l'OM en Ligue des Champions, à domicile, dans un stade comble depuis une décennie. Un moment que veut savourer le capitaine et titulaire ce soir, Dimitri Payet.
Je suis content parce que notre public a été à la hauteur des ambitions et a été correct dans le comportement l'année dernière. Les voir ici, c'est une belle récompense pour eux aussi. J'espère qu'on pourra faire ce qu'il faut pour les rendre encore plus heureux.
Francfort a lui aussi raté son entrée lourdement, 3-0 sur sa pelouse face au Sporting du Portugal. Une équipe en plein doute, contrairement à l'OM qui a pris le meilleur départ de son histoire en championnat. Les Marseillais pourront compter sur leur star chilienne, Alexis Sanchez, redoutable depuis son arrivée. Un atout majeur pour le milieu Matteo Guendouzi.
C'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un très grand joueur. J'en suis sûr qu'il va faire un très grand match et je l'espère continuer de marquer de nombreux buts.
Si Sanchez fait mouche, l'OM se rapprochera d'une victoire en Ligue des Champions, un événement qui ne s'est produit qu'une seule fois depuis 2012.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, Marseille-Francfort ce soir à 21h. Match à suivre bien sûr en direct dans l'émission Europe 1 Sport et la ville, qui a été d'ailleurs placée sous haute sécurité par crainte de débordement. Près de 10 000 supporters allemands sont attendus, dont la moitié sans billets. 5 personnes ont déjà été interpellées hier après quelques incidents.
Merci Christophe Lamar. Vous nous avez parlé, vous nous avez emmené en Suède dans votre journal. On va continuer d'en parler avec Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po, directeur général de la Fondapol. Il est notre invité dans un instant. Il va nous aider à décrypter ce qui se passe actuellement en Suède.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Après 8 années gouvernées par la gauche, la Suède, un terre de la social-démocratie, est en passe de connaître une révolution politique. La droite conservatrice, alliée pour la première fois aux populistes, sont aux portes du pouvoir à l'issue des élections législatives du week-end dernier. Alors ça mérite qu'on s'y attarde parce que la trame politique qui est en arrière-fond de cette bascule politique suédoise, en fait on la retrouve un peu partout en Europe, y compris en France. Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes professeur des universités à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Vous suivez de très près ce qui se passe en Suède. Alors pourquoi faut-il regarder de près ce qui se passe là-bas politiquement? Je précise qu'on n'aura pas les résultats définitifs de l'élection avant demain.
Oui, on en sait déjà suffisamment de toute façon. Un, c'est très serré, mais deux, surtout, les démocrates de Suède, donc ce parti qu'on peut qualifier de populiste, qui est parfois qualifié d'extrême droite, dans le commentaire.
On va tenter de préciser ce qu'ils sont,
oui, qui est né en 1988. Eh bien, n'a cessé de progresser aux élections depuis le début des années 2000. Il faisait 1,44% en 2002. Là, il est autour de 21%. Et je veux juste dire que d'élection en élection, on ne va pas les faire toutes, bien sûr, mais il a toujours progressé, sans cesse. Et il est en train de bousculer, de bouleverser profondément le système politique suédois où... je dirais depuis toujours, depuis un siècle, hein, c'est la social-démocratie qui gouverne. Mmh. Et là, nous avons cette fois-ci une situation inédite où, même sans savoir ce qui va se passer, je ne sais pas s'il y aura finalement une coalition de droite au pouvoir ou si les social-démocrates vont être en quelque sorte sauvés par les votes de l'extérieur des Suédois de l'étranger. Mais en tout cas, c'est une situation sans précédent en Suède.
Oui. Alors venons-en au cœur du sujet, parce que vous dites que ce résultat, c'est-à-dire c'est peut-être la première fois que la social-démocratie serait ainsi battue, c'est le prolongement, c'est la conséquence d'une politique irresponsable en matière d'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé, Dominique Reynier ?
Oui, parce que c'est toujours un peu la même chose. On fait des commentaires sur des résultats électoraux, mais sans s'interroger sur les causes de ces résultats. D'abord, il faut dire que la Suède, la Suède est un pays qui n'a pas de tradition d'immigration. C'est un pays qui a été presque toujours culturellement, linguistiquement, très homogène. On a commencé à avoir en Suède des immigrés à partir de 1945, mais tous issus de l'Europe. Donc c'était ça. Et puis assez peu nombreux. À partir des années 90, il y a une immigration à la fois extra-européenne et massive. Les deux se sont combinés. Et les Suédois se sont retrouvés soudainement avec une population multiculturelle. Pour vous donner un exemple, il y a 25 ans, il y a 2% d'immigrés d'origine extra-européenne dans la population suédoise. Aujourd'hui, ils sont 20%. C'est une immigration incontrôlée. Le problème ici, ce n'est pas l'immigration, c'est l'absence de contrôle. Et ça a donné lieu à un multiculturalisme qui se passe mal et qui est notamment lié, dans ses conséquences, à un développement, voire une explosion de la délinquance, de la criminalité. Ce sont des choses que parfois on a du mal à entendre, mais c'est factuel, c'est connu des Suédois, même s'ils ont beaucoup de mal eux-mêmes, politiquement, à l'admettre, dans leurs rapports, les universitaires, les études le montrent abondamment.
Alors tout de même, il y a eu des mots très forts, parce que au début de l'année, au mois d'avril, les Suédois ont connu des émeutes assez comparables à celles que nous avons vécues en France en 2005. Extrêmement violentes, parce qu'en fait, c'était un chef politique danois qui s'est présenté en Suède. Il a brûlé publiquement un Coran, ce qui a déclenché des émeutes dans des quartiers très fortement islamisés. Et voilà ce que disait la première ministre suédoise actuelle, la social-démocrate, dont la formation est arrivée en tête des élections dimanche. Elle dit « L'intégration a été trop faible ». Tandis que nous avons dans le même temps connu une immigration massive. Notre société a été inconséquente sur cette question. Les moyens alloués à la police et aux services sociaux trop légers. Là, on a quand même des mots qui reconnaissent la situation.
En effet, oui. Mais je ne sais pas si on peut se rendre compte quand on en parle ainsi. C'est comme ça, on ne peut pas. La Suède, c'était vraiment pas ça. C'est devenu, par exemple, un des pays où la criminalité en Europe est le plus élevée. Pour vous donner une idée, il y a 3,5 fois plus de morts par arme à feu qu'en France à population comparable. L'une des modalités de la guerre entre les gangs en Suède la plus répandue, c'est la grenade à main. Donc,
le règlement de compte se fait à la grenade.
Absolument. Et il y aurait comme ça des exemples nombreux à montrer. Alors, il y a déjà des émeutes urbaines depuis maintenant longtemps, alors qu'en 2005, les Suédois ont regardé la France avec effroi. Il y avait beaucoup de commentaires à ce sujet en Suède. On disait si nous devenons comme cela, ce sera désastreux. Les Suédois sont déjà au même niveau et voire au-delà.
J'élargis un petit peu la focale. Il y avait beaucoup de choses à dire encore sur la Suède, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais dans deux semaines, c'est l'Italie qui vote. Et on annonce une victoire potentielle d'une coalition assez similaire à celle qui s'est présentée aux urnes en Suède, avec d'un côté la droite classique conservatrice libérale, et qui formerait un attelage avec, dans le cas italien, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, donc formation néo-fasciste. On a vu aussi une alliance droite, extrême droite, assez similaire en Espagne, aux élections régionales la semaine dernière. Ce thème de l'union des droites, il est en train de prospérer un peu partout en Europe, là ?
Une droitisation des pays en Europe, avec à l'intérieur de la droitisation une montée en puissance d'une droite de type populiste, parfois qualifiée d'extrême droite, dont le thème principal est l'opposition au multiculturalisme, la lutte contre l'immigration. Donc ça, c'est tout à fait constant, désormais. Une sorte de glissement politique de l'ensemble de l'Europe. Mais avec une dissociation, moi, qui m'étonne beaucoup, c'est-à-dire des gouvernants nationaux et un gouvernement européen qui depuis, parce que c'est pas nouveau, hein, ça fait 25 ans que moi j'observe ces phénomènes-là, au niveau national comme au niveau européen, une sorte d'absence totale d'intérêt pour ces sujets et de volonté d'y répondre. Mmh. Comme si les problèmes d'immigration, d'intégration, les multiculturalismes qui ne fonctionnent pas correctement n'étaient pas des objets dignes d'une politique publique, comme tous les problèmes que nous rencontrons le sont.
C'est donc, un tabou politique.
C'était très curieux, c'est un tabou politique, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'électoralement, les partis n'ont pas intérêt à faire cela. On le voit en Suède, on va le voir en Italie, en effet, bientôt.
Et pourquoi en France, alors, cette union des droites qu'on observe se fait, qu'on voit se faire ailleurs, pourquoi ça ne marche pas chez nous ?
Alors, c'est une vaste question, hein, Dimitri Pavlenko, mais il y a une raison en France, je pense, parmi d'autres, hein, qu'il faudrait développer si on avait plus de temps, c'est que nous avons une élection présidentielle au suffrage universel direct, et donc l'union doit se faire au profit d'une personne qui sera présentée pour devenir chef de l'État avec de vrais pouvoirs.
Le mode de scrutin ne favorise pas ce type d'alliance.
Le système institutionnel, qui est très favorable à ce type de force politique, n'est pas favorable à ce type de coalition, même si elle peut avoir lieu. Alors que dans les pays que nous avons cités, que vous avez cités, l'Espagne, l'Italie ou la Suède, ce sont des systèmes parlementaristes qui reposent souvent sur un mode de scrutin et des coalitions plus appropriées pour ce genre de rapprochement.
Merci Dominique Régnier de nous avoir apporté vos lumières. J'envoie d'ailleurs ceux que ça intéresse sur la situation suédoise au rapport que la Fondapol avait publié en 2018, Les Suédois à l'immigration, fin de l'homogénéité. C'était point d'interrogation. C'était une question que vous posiez. Le rapport est toujours d'extrême actualité, si l'on peut dire. Merci d'être venu nous voir. 7h20 sur Europe 1.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito Éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Tiens, j'ai un petit chiffre pour vous avant de vous donner la parole. Le bouclier tarifaire, on apprend ce matin dans la presse que ce sera le troisième poste de dépense de l'État en 2023. 50 milliards d'euros, ça va coûter ce bouclier tarifaire. Hein.
Après, et voilà, on s'en reparlera.
On s'en reparlera. Alors, vous nous parlez ce matin de cette crise d'hystérie à gauche qu'on a vu le week-end dernier sur la question du travail. Crise déclenchée par Fabien Roussel, le leader communiste qui a déclaré préférer la gauche du travail à la gauche des allocations.
Oui, alors je vais citer Fabien Roussel parce que c'est intéressant, hein, j'ouvre les guillemets. « L'horizon de vie que je souhaite pour nos enfants, ce n'est pas une vie de chômage, de précarité et d'allocation de RSA. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions garantir l'accès à un travail, à une formation, à un salaire qui permette de vivre dignement », fermer les guillemets. Bon, Dimitri, rien d'extraordinaire. La vérité, c'est que la plupart des gens de bonne volonté pensent ça. Alors, levée de bouclier du côté de Mathilde Panot chez la France Insoumise, Julien Bayou chez les écologistes ou Olivier Faure. Olivier Faure, c'est intéressant parce qu'il est quand même premier secrétaire du Parti Socialiste. La vérité, c'est qu'en s'opposant ainsi à Roussel et en le rejetant dans le camp de la droite, ce qui est évidemment une insulte pour lui parce qu'il défend le travail contre les allocations, il trahit l'héritage socialiste sur le travail. Il trahit l'héritage de Jaurès, pour qui le droit au travail faisait partie des libertés fondamentales des humains. Il trahit l'esprit de la Révolution française, qui a supprimé les corporations pour que chacun ait le droit de travailler. Il trahit l'esprit de Victor Hugo, qui se déclarait socialiste et qui déclarait en juin 1848 à la tribune de l'Assemblée nationale, à certains de ses amis socialistes d'ailleurs, j'ouvre les guillemets, nous connaissions déjà le désœuvré de l'opulence, vous avez créé le désœuvré de la misère, la monarchie avait les oisifs, la République aura les feignants.
Alors Léon Blum et le Front Populaire ont néanmoins réduit le temps de travail, Nicolas. Hein.
Oui, vous avez raison, à 40 heures. Alors, je suis un immense admirateur de Léon Blum, mais enfin, c'est pas ce que le Front Populaire a fait de plus grandiose. Certains de ses amis d'alors, d'ailleurs, comme l'économiste Robert Marjolin, ont même considéré que ça avait affaibli l'économie française à un moment où notre pays allait peut-être entrer en guerre, ce qui a été effectivement le cas. Bon, je laisse les historiens déterminer si la baisse du temps de travail du Front Populaire a eu un impact sur la défaite française. Ce qui est certain, c'est que le socialisme à la française s'est construit autour de la question du travail, travail pour tous, augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail. Les socialistes, les écologistes et les insoumis ne peuvent plus se revendiquer de cette histoire. Ils ont abandonné Jaurès pour une bouillie décroissante qui n'est en rien progressiste.
Alors, augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail, ça, ce sont des préoccupations très contemporaines, Nicolas.
Bah évidemment, plus de 60% des entreprises ont des difficultés de recrutement. Regardez les caristes qui travaillent dans les entrepôts, par exemple. C'est un sujet énorme. Comment diminuer leur pénibilité? Comment augmenter leur salaire? Voilà les questions que doivent se poser les socialistes et les services publics. Comment augmenter fortement la rémunération des enseignants, faire en sorte qu'ils soient mieux considérés à la hauteur de leur contribution à la société et de son avenir? Si la réponse de la gauche est les allocations, c'est pas plus mal que le travail, faut pas s'étonner qu'elle perde toutes les élections.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
C'est le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
Il a fait frais mais sec cette nuit à Édimbourg où des milliers de personnes ont attendu pour se recueillir près du cercueil de la reine Elisabeth II. Elles pourront encore le faire jusqu'à cet après-midi. La dépouille de la reine prendra ensuite la direction de Londres où elle doit être exposée au public à partir de demain. Retour en France, particulièrement au Sable d'Olonne, en Vendée, où Emmanuel Macron a rendez-vous aujourd'hui. Déplacement sur le thème de la réforme de la voie professionnelle. Et puis la Gironde à nouveau en proie aux flammes. Depuis hier après-midi, 1300 hectares sont partis en fumée dans le secteur de Somos. 4 maisons brûlées, 540 personnes évacuées.
Cet adversaire,
allô, Jacques Paris,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Il y a 30 ans, en septembre 1992, a lieu une évasion meurtrière dans la prison française de Clairvaux, dans l'Aube. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
L'établissement est réservé aux prisonniers les plus dangereux. Deux détenus et un surveillant vont trouver la mort lors de cette évasion.
Oui, tout commence dans la salle de musculation lorsque deux détenus prennent en otage ce gardien et lancent une opération d'évasion à laquelle se rallient 7 autres prisonniers. Coup de feu, un détenu et un gardien sont tués. Avec leur otage, les prisonniers enfoncent la dernière porte de la prison à bord d'un camion et s'enfuient avec 3 voitures garées sur le parking, ce témoin raconte.
On a entendu les coups de feu et puis immédiatement on a entendu la sirène et ils ont essayé même de monter plusieurs dans la voiture, mais le gardien qui... Il y a des gardiens qui n'ont pas pu monter, donc ils ont refusé. Ils ne voulaient pas se mêler avec les détenus. Quoi.
C'est le début d'une cavale de plusieurs jours. Les prisonniers enlèvent 2 otages sur leur route avant de les abandonner dans la forêt, comme cette caissière Ghislaine Serrière qui est prise en otage puis relâchée.
Bah, nous avons fait des haltes et puis nous avons roulé une partie de la nuit. Et ensuite, nous sommes arrivés en forêt, je ne me souviens plus.
Vous êtes tranquillisé maintenant ?
Oui, ça va mieux.
Quelques heures plus tard, ulcérés par le décès d'un de leurs collègues, les gardiens de 130 prisons se mettent en grève et réclament des établissements spécialisés pour les détenus dangereux.
Imaginez vous faire enlever comme ça par des détenus en fuite. Alors les heures passent, on découvre que des armes étaient dans la prison et qu'elles ont été utilisées par les détenus pour s'échapper.
Et le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, demande comment un tel arsenal a pu entrer dans la prison.
Il y avait des armes qui étaient entrées dans la prison. Ce n'est pas le gouvernement qui les y avait mises. Il faudra que la vérité soit connue. Il faudra que la discipline dans les prisons règne.
Une semaine plus tard, après le braquage d'une banque à Niort, 3 des hommes sont arrêtés à Bordeaux lors d'un contrôle d'identité.
Au cours de cette interpellation, les malfaiteurs ont ouvert le feu. Ils étaient très armés, avec un fusil à pompe et un fusil de chasse. Quand on voit leur équipement et l'armement qu'ils avaient, on peut se féliciter qu'ils aient pu être arrêtés ce soir.
Tous les évadés seront repris peu à peu et les surveillants reprendront le travail après 15 jours de grève.
Merci Lord d'Autriche. Allez, à suivre dans Europe Matin, la contre-offensive de l'armée ukrainienne marque-t-elle un tournant dans la guerre? Le regard de Vincent Hervouet dans un petit peu moins d'un quart d'heure.
Europe Matin,
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
À la une, c'est rien moins qu'une épreuve de réconciliation qui attend aujourd'hui Charles III, le nouveau souverain, se rend à Belfast, en Irlande du Nord, nation partagée sur ses liens avec la couronne. Reportage dans un instant. Il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Le Covid, les contaminations progressent à nouveau, notamment chez les enfants. Et puis, alerte maximale du côté de Marseille. L'OM reçoit ce soir les Allemands de Francfort en Ligue des Champions. Les autorités anticipent des affrontements violents entre supporters.
Europe.
Le journal Roman Hockey, bonjour Roman.
Bonjour à tous.
Le public, no. Le public, no.
Republic Now, la République maintenant, revendication scandée hier à Édimbourg par des manifestants. Grain de sable lors du déplacement millimétré du roi Charles III en Écosse, nation tentée par l'indépendance comme une partie de l'Irlande du Nord où le nouveau souverain est attendu aujourd'hui.
Et oui, déplacement sensible à Belfast où le roi devrait sentir, comme il disait aux parlementaires il y a deux jours, le poids de l'histoire. Une histoire fragile hein, avec la couronne.
Et le parti nationaliste est arrivé en tête aux élections législatives. Le Sinn Féin refuse de reconnaître l'autorité de la monarchie en Irlande du Nord. Et si la mort de la reine fragilisait encore davantage l'unité du pays, c'est la crainte des loyalistes qui attendent leur nouveau roi. Le reportage de notre correspondante Laura Taouchanoff.
À voir le nombre de drapeaux de l'Union Jack, pas de doute, nous sommes dans l'un des principaux quartiers loyalistes de Belfast. Au pied d'une fresque géante à l'effigie du roi protestant William III, Robert se repose sur son banc préféré.
Le roi va avoir un super accueil ici. On veut rester britannique. On s'est battu et j'ai perdu des amis tués par l'IRA. De meilleurs jours arrivent, même s'il ne m'en reste pas beaucoup.
Après avoir acheté un drapeau pour accueillir Charles III, Jacqueline et Andrea se demandent à quoi s'attendre pour la suite.
Il ne peut pas intervenir en politique, mais on aimerait qu'il règle le protocole nord-irlandais.
C'est partout aux infos, il a une influence et il rencontre les ministres tous les jours. Il faudrait que le roi affiche publiquement son ambition pour ce pays et qu'il relance notre assemblée parce qu'on n'a pas de gouvernement depuis un moment. On a plein de problèmes, il pourrait avoir une influence positive.
Les fidèles de la couronne seront présents en nombre aujourd'hui pour montrer que non, la culture britannique ne s'éteint pas avec la reine. Belfast, Laura Taouchanoff, Europe 1.
La reine partageait un point commun avec son fils, son amour pour la France, pays que Charles III a visité à plusieurs reprises en tant que prince de Galles.
Oui, notamment à Autun, en Bourgogne. On se souvient de son passage quasi incognito en 1990. Ce jour-là, Charles visite la cathédrale de la ville avant d'aller déjeuner au Petit Rollin, restaurant typique du Morvan. Un souvenir que la gérante a raconté au micro de Jean-Luc Boujon.
Geneviève Lamy n'a rien oublié de ce dimanche 2 décembre 90. C'est bientôt la fin du service, lorsque le chanoine de la ville déboule au Petit Rollin pour annoncer un invité de marque.
Il nous prévient, je vais vous amener quelqu'un de célèbre. Il nous dit, c'est le prince Charles. Vous en occupez bien parce qu'il a vraiment besoin de manger. Et en effet, peut-être 20 minutes après, il revient, il ouvre la porte, c'était vraiment le prince Charles.
Féru d'art roman, le prince de Galles vient tout juste de visiter la cathédrale du XIIe siècle. Il prend place à table et commande.
Il a mangé un crapiot sans jambon. C'est une de nos spécialités de chez nous là. C'est une grosse crêpe avec l'œuf, des pommes de terre, de la salade à côté, du fromage blanc dessus. Ah ça tient au ventre, c'est mon revendu, ça tient au ventre.
Évidemment, le prince Charles ne passe pas inaperçu.
J'avais une grande tablée de jeunes de l'école militaire au fond du resto et quand ils ont vu rentrer le prince Charles, ils sont tous mis au garde à vous. Et le prince Charles a été sur le coup, mais vraiment très très surpris.
Geneviève Lamy garde un excellent souvenir du monarque.
Il a vraiment discuté avec nous, il était charmant et il parle parfaitement le français.
La table où a déjeuné le prince Charles existe donc toujours près du mur avec sa petite lampe colorée. Mais depuis samedi, c'est bien la table du roi Charles III qu'il faut demander à la patronne. Autun, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Un crapiot sans jambon. Donc,
voilà, une grosse crêpe au fromage. Donc le roi qui a participé d'ailleurs à une veillée funèbre hier soir dans la cathédrale de Saint-Gilles d'Édimbourg, là où repose Elisabeth II. Son cercueil part aujourd'hui à Londres avant les funérailles prévues lundi. Sur la liste des invités, près de 500 dirigeants du monde entier.
Alors comment vont-ils justement ces dirigeants planétaires se rendre à la cérémonie?
Alors certainement pas en jet privé pour Emmanuel Macron. La polémique agite le ciel politique depuis le début de l'été. Les insoumis ont déposé hier une proposition de loi pour interdire ces avions au nom de l'urgence climatique. La NUPES s'accorde sur le fond, mais Alexis de la Fontaine, il y a quelques turbulences du côté de la méthode.
Oui, entre la forte incitation et l'interdiction totale, aucun compromis n'est envisageable pour le moment. Alors, en attendant, chacun travaille en ordre dispersé. Les insoumis proposent d'interdire totalement les jets privés sur le territoire français. Face à cette position radicale, l'écologiste Julien Bayou considère cette interdiction impossible et préfère être réaliste. Le leader des Verts assume d'ailleurs de travailler directement avec le ministre des Transports, Clément Beaune, pour mieux réguler l'activité des jets privés, un dialogue avec le gouvernement qui exaspère les plus radicaux de la NUP. L'insoumis Thomas Porte, à l'initiative de cette mesure, défend sa position.
Nous, on ne croit pas que c'est faire du buzz, on croit que c'est une mesure qui est urgente écologiquement. Ce n'est pas le commun des mortels qui utilise un jet privé. Ce sont une minorité qui aujourd'hui crame la planète avec des comportements que nous on considère comme criminels.
Le Parti Socialiste, de son côté, refuse la proposition des insoumis et préfère la régulation. Pour conclure, la question des jets privés fait rejaillir au sein de la NUP tous les non-dits, les tabous et les nombreux désaccords qui restent bien présents entre les formations de gauche et d'extrême-gauche à l'Assemblée nationale.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
On l'aurait presque oublié, il est pourtant toujours là. Le Covid, évidemment, 16 000 nouveaux malades par jour.
Oui, à commencer par nos enfants, peut-être même le vôtre. Chez les moins de 10 ans, le taux d'incidence a progressé de 40% en une semaine. Et vous allez l'entendre, cela n'a rien à voir avec la rentrée scolaire. Les explications de Yasmina Katou.
La multiplication des variants serait responsable de ce rebond chez les enfants. En 2 ans, nous avons connu les variants alpha, bêta, gamma, delta. Aujourd'hui, Omicron et son sous-variant BA5. À chaque fois, ces variants sont plus contagieux que les précédents. Les enfants, qui étaient moins touchés, ne sont plus épargnés avec Omicron, explique le professeur Robert Cohen, infectiologue.
Au départ, les contaminations chez l'enfant étaient à la fois moins fréquentes et ils étaient moins contaminants. Au fur et à mesure, les nouveaux variants sont devenus de plus en plus contaminants. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a autant de chances qu'un enfant soit contaminant que ne l'est un adulte.
Le médecin évoque aussi un phénomène de rattrapage pour les enfants qui n'ont pas été contaminés.
Les premiers virus, ils ont moins affecté les jeunes enfants qu'ils ne l'ont fait pour les adultes. S'il y avait des enfants qui avaient été moins infectés avant, ils sont encore plus susceptibles. Donc on a un risque, effectivement, d'avoir pas mal de contaminations.
Pas d'inquiétude pour l'instant, tempère Robert Cohen. Les formes graves chez les enfants restent rares.
Yasmina Katou.
7h37, le début d'une semaine à haut risque dans les stades de football. Déjà ce soir, l'Olympique de Marseille reçoit Francfort, c'est en Ligue des Champions.
Oui, un match à très haut risque pour les autorités qui redoutent des affrontements avec les milliers de fans allemands attendus dans la ville. Le reportage de notre correspondant Stéphane Burgat.
Ce match doit rester une fête. L'appel est lancé par le co-capitaine de l'Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi.
Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des personnes qui viennent de très loin pour regarder ce genre de magnifique match. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de débordement. C'est une fête pour tout le monde.
Mais après le hooligan tour de la saison passée, des incidents à répétition en tribune ou en ville avec des supporters grecs, turcs ou encore hollandais, les commerçants sont échaudés, comme sur le Vieux-Port où les chaises de la terrasse de Hakim à la brasserie Le 15 ont volé à plusieurs reprises.
Eh ben nous, en général, à chaque fois qu'il y a des déplacements et qu'il y a des soucis, on est aux premières loges, malheureusement. Donc là, on est sur le qui-vive. Voilà, on travaille dans la crainte, en fait. 14h, je vais tout servir dans des gobelets pour anticiper. Et si ça part, on rentre tout en catastrophe, on tire le rideau, on rentre.
Et même sentiment d'exaspération du côté des forces de l'ordre. Rudy Mana, le secrétaire départemental du syndicat Alliance.
C'est un match qui sent fortement la poudre. On va essayer de faire face avec tous les moyens qu'on a. Il y a 9 compagnies républicaines de sécurité, ce qui est du jamais vu sur Marseille. Mais vous rendez compte, pour un match de foot aujourd'hui, ce que cela peut coûter, ça devient incroyable.
Et la division nationale du hooliganisme place cette rencontre OM Francfort en risque maximal. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et puis voilà une actualité qui vous a sûrement échappé.
Mais c'est Robbie
Mais
Williams.
Mais oui, c'est Robbie Williams, exactement. Son nouvel album est sorti le jour du décès de la reine. Donc c'est quand même pas de chance. Surtout que le chanteur britannique était proche de la reine. Et d'ailleurs, Dimitri, je sais que vous étiez inquiet à ce sujet, je tiens à vous rassurer. Les corgis de la reine, eh bien, on vient d'apprendre qu'ils vont être adoptés par son fils Andrew, Mouik et Sandy. Voilà,
ah oui.
Qui ont coulé des jours heureux.
Comment il disait Gaspard Proust ce week-end, les corgis, c'est, il disait, c'est des teckels avec une tête de... de renard sous cortisone, voilà.
Ah oui, d'accord.
Sympa.
Oh, c'est mignon quand même, les corgis.
C'est Gaspard Proust. D'ailleurs, il est avec nous. Je vous rappelle, tous les mercredis, il sera avec nous demain à 8h35. Merci beaucoup, Romain. C'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, on parle depuis 48 heures de la remontée en force de l'armée ukrainienne. Est-ce un vrai tournant militaire ou bien un coup de propagande? Un de plus, on a besoin des lumières de Vincent Hervouette. Ça tombe bien, il est juste en face de moi.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, notre page culture quotidienne, Nicolas Caro, bonjour.
Bonjour Dimitri.
Ah, vous avez un roman qui compte ce matin, m'avez-vous dit ?
Un roman poignant. Pas le plus joyeux, mais très très intéressant. C'est un peu le phénomène de cette rentrée.
Ouh, et Caroline Speller est avec nous pour les jeux vidéo.
Bonjour Dimitri.
Le dernier hit de Nintendo ce matin, un indice ?
Splatoon 3, évidemment.
Bon, très bien.
Évidemment.
On voit ça dans un instant. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri.
Alors la presse s'emballe depuis 48 heures pour cette contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv. Est-ce que c'est un tournant de la guerre ?
1000, 2000, 3000 et puis maintenant 6000 km² repris à l'ennemi. Les médias célèbrent la victoire, un triomphe et même un tournant. En face, la débâcle, la déroute, la débandade russe. La presse en guerre est toujours enthousiaste, surtout quand elle a été soumise au blackout, habituée depuis 6 mois à ce que les Ukrainiens résistent courageusement mais reculent, à ce qu'ils se défendent mais sans jamais mener d'offensive, à ce qu'ils maintiennent un silence épais sur leurs opérations. La bataille de Kharkiv, si soudaine et si bien menée, c'est une divine surprise. Et c'est vrai, la ligne de défense russe s'est effondrée. En déguerpissant, les Russes abandonnent un matériel considérable, les vidéos impressionnent, et surtout, des soldats faits prisonniers. Pour nous, Français, ça rappelle tout à la fois la percée des panzers allemands qui déboulent dans les Ardennes, là où on ne les attendait pas, et la débâcle de juin 40. Et déjà, on imagine des généraux russes limogés, on applaudit les kamikazes qui, à Saint-Pétersbourg, réclament le procès de Vladimir Poutine pour haute trahison.
Est-ce qu'on a tort de s'enthousiasmer, Vincent ?
Ben, 6000 km², c'est la taille d'un département français, moyen. C'est à peu près ce que les Russes avaient conquis depuis le printemps. Sur une ligne de front qui fait 1200 km, un tronçon de 70 km vient de lâcher. Et un tronçon fragile, parce que dégarni, les troupes les plus aguerries, 20 à 25 000 hommes, avaient été déplacées vers Kherson, où l'Ukraine annonçait une offensive majeure. Cette bataille de Kherson est en cours, ce n'est pas du bluff, mais elle a servi de leurre. Du coup, le secteur de Kharkiv a été défendu surtout par des conscrits, des russophones, des républiques de Donetsk et de Lugansk, où tous les hommes adultes sont mobilisés, enrôlés de force, sans formation. En face, l'armée ukrainienne a rassemblé discrètement les beaux blindés de l'OTAN et ceux offerts par les Australiens. Elle a profité du renseignement fourni par le Pentagone et le moment venu, elle a lancé la contre-attaque sur toute la zone, décapitant le commandement ennemi avec ses lance-roquettes HIMARS. Elle a su exploiter l'avantage. Les villes de Koupiansk, qui servaient d'arsenal, de Balaklia et d'Izium, le nœud ferroviaire, sont donc tombées. Cette armée ukrainienne fait des progrès considérables. Pour la première fois, elle reprend du terrain. Elle prouve aux Occidentaux qu'elle sait se servir des armes qu'ils lui livrent. Et les Américains ont le sentiment grisant de remettre les Russes KO. Mais gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre.
Bon, c'est quand même un bon début, Vincent.
Alors qu'est-ce que ça signifie gagner la guerre pour les Ukrainiens ? Revenir aux frontières de 91, c'est-à-dire récupérer la Crimée, revenir au statu quo de février dernier, ou bien limer les dents du Kremlin au point qu'il n'ait plus les moyens de mordre ses voisins, comme l'a expliqué le secrétaire américain à la Défense. Côté russe, il suffit que Vladimir Poutine le décide, et l'opération spéciale aura atteint ses buts. Il le prétendra, jamais il ne reconnaîtra la victoire de l'ennemi. Son armée déçoit les experts, son état-major s'est laissé berner, mais il garde des atouts en réserve, son arsenal nucléaire qui impose une forme de retenue, et aussi le général Hiver qui arrive au galop. Il va geler les mouvements sur le front, et il va aussi mettre les Européens au défi de se serrer la ceinture. Vladimir Poutine les croit frileux, il joue le pourrissement. Il est trop tôt pour vendre la peau de l'ours russe. Et d'ailleurs, on risque d'en avoir besoin de cette peau pour se tenir chaud. Hein.
Merci beaucoup Vincent Hervouet, 7h47.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Alors le livre du jour, Nicolas Caro, vous nous disiez un roman important de cette rentrée littéraire. Hein.
Oui, alors ils comptent tous, mais celui-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, n'est-ce pas, un phénomène de rentrée, c'est-à-dire qu'on sent comme un frémissement, un emballement des libraires en particulier. Ça s'appelle « Les enfants endormis » signé Anthony Passeron aux éditions Globe. Je vous avoue que quand j'ai eu le livre cet été, un peu avant sa sortie, je me suis dit « bon, encore un livre sur le sida, un truc triste, un témoignage, bof bof », et puis j'ai ouvert.
Et là, ça vous a plu ?
C'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas plaire. Par la force du récit, il y a d'un côté la vie de Désiré. Désiré, c'était l'oncle de l'auteur Anthony Passeron. Il vivait dans une famille de bouchers dans l'arrière-pays niçois. Il était très bon, très équilibré, un destin tout tracé. Oh, pas le plus extraordinaire, mais le travail d'artisan bien fait. Le petit commerce des parents marchait bien. Son frère aussi, le père de l'auteur, est dans la même voie. C'est d'ailleurs avec ce père que l'histoire commence. Quand Anthony Passeron, l'auteur, lui demande... comment c'était Amsterdam ?
Quoi, c'était un voyageur ce père ?
Pas du tout, il n'a voyagé qu'une fois à Amsterdam pour aller chercher Désiré. Parce que Désiré un jour a décidé de tout quitter, d'échapper à son destin et d'aller vivre les années 70 à fond. Mais il s'est pris dans les raies de la drogue, l'héroïne, et là tout bascule. Il va finir par revenir, mais il vole pour avoir sa dose. Il est avec Brigitte, héroïnomane comme lui. Les parents sont dans le déni total et le père de l'auteur, le frère de Désiré, lui, est en colère de voir ce frère se détruire. Il gardera cette colère toute sa vie, puisque puisque les choses ne vont pas en s'arrangeant. Désiré contracte au début des années 80 une maladie quasiment inconnue, un virus terrible qui a l'air pour l'instant de ne concerner que les 4H, homosexuels, hémophiles, haïtiens et héroïnomanes.
Et c'est donc le sida. Hein.
Voilà. Et on suit en alternance, c'est ça ce qui est passionnant, avec le récit de vie de Désiré, l'apparition du point de vue des chercheurs de cette étrange maladie et surtout comment le problème a été minimisé, nié même. L'un des chercheurs a été menacé par sa direction de quitter l'hôpital où il travaillait s'il persistait à travailler sur ce virus qui ne concerne personne ou presque.
Mais c'est quoi ce livre? C'est un témoignage? C'est un essai? C'est une histoire romancée du sida?
L'éditeur appelle ça roman, moi je vais vous dire peu importe. La partie médicale, où tout est vrai, hein, parce qu'il est historien aussi, se lit comme un thriller et le récit comme un roman familial poignant. Désiré et Brigitte auront un enfant, une fille, sans savoir qu'elle pourrait possiblement être contaminée aussi. Et je vous raconte pas la fin, mais ça secoue drôlement. C'est sans doute pas le livre le plus joyeux de cette rentrée, certainement pas, mais c'est un livre qui ne laisse pas indemne. L'auteur a 39 ans, prof de lettres et d'histoire géo, et c'est son premier roman.
Voilà, il s'appelle Anthony Passeron. Mais les profs de lettres et d'histoire géo sont souvent des romanciers remarquables. Pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns. Voilà, ça s'appelle Les Enfants Endormis, c'est chez Globe. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Bon, plus joyeux, Caroline Speller.
Un tout petit peu plus.
Alors,
joyeux.
Le jeu de la semaine pour vous, c'est 100% Nintendo, donc c'est plein de couleurs. C'est ni un Mario, ni un Pokémon, un Zelda d'ailleurs.
Oui, voilà, oui, exactement. Oui, Nintendo est connu pour recycler ses licences, mais attention avec succès. Il n'y a qu'à voir avec Mario. En 37 ans, le plombier moustachu comptabilise plus de 200 jeux.
Non.
Rien que ça.
Vous avez vu que c'était en 85, un 13 septembre comme aujourd'hui,
exactement,
qui est sorti.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
Le
donc, 37 ans aujourd'hui, Happy Birthday Mario. Mais la firme japonaise crée aussi la surprise avec de nouveaux concepts et personnages comme Splatoon en 2015. Ça ne vous dit peut-être rien et pourtant Splatoon 3 vient de sortir sur la console Switch et son deuxième épisode s'est même vendu à 12 millions d'exemplaires à travers le monde. Alors Splatoon, c'est quoi? C'est tout simplement un jeu de tir qui se joue à plusieurs, mais avec la magie de Nintendo, ça devient fun, coloré, addictif et accessible à partir de 7 ans.
Et pourtant, les jeux de tir, c'est plutôt allez, Call of Duty, guerre, mitrailleuse, charge. Voilà, c'est plutôt
voilà,
violent.
Tout ça, c'est vrai. Là où la plupart des jeux de tir nous proposent des héros badass avec un certain degré de violence, dans Splatoon 3, nous sommes des ados mi-humains, mi-calamars, oui, qui s'affrontent à coups de peinture. Armés de rouleaux géants, de canons, d'arcs ou de bombes, on ancre le terrain adverse tout en dégommant quiconque se trouve sur notre chemin. Autant vous dire que l'ambiance est digne d'une cour de récréation. Dans Splatoon 3, notre terrain de jeu, c'est la cité Clabousse, le paradis des graffitis, du streetwear et de la musique pop urbaine, mais surtout notre point de départ pour trouver notre mode de combat. Alors, il y a les guerres de territoire où deux équipes de quatre s'affrontent pour asperger un maximum de terrain, ou encore les batailles où on doit faire face à des vagues incessantes d'ennemis, mais il y a aussi un mode histoire plus tranquille pour se faire la main seule à notre rythme.
Donc, c'est du multi, il y a du multijoueur, ça se joue avec faut internet donc.
Ah oui, à moins que vous ayez des amis sur la console, avec la console Switch et leur propre jeu pour jouer en local. Oui, il est nécessaire d'utiliser Internet et donc de s'abonner au Nintendo Switch Online pour profiter de l'intégralité de Splatoon 3. Et oui, et d'affronter des joueurs du monde entier, dans ce cas, quand vous le voulez, évidemment.
Voilà, ils font tout ça maintenant.
Dans les années 80, il y avait Duck Hunt avec le jeu Mario Bros.
Et le pistolet sur la
télé. Et le pistolet, oui.
Ça, c'était chouette.
C'était chouette aussi.
200... On n'avait pas besoin de s'abonner.
Il y a eu 199 Mario depuis, nous disait Caroline. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Merci, Caroline Speller. Bonne semaine à tous les deux. 7h52 sur Europe 1.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité résumé par Alban Le Prince et le journal permanent.
Avant son arrivée à Londres dans la soirée, les Britanniques continuent de faire la queue devant la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, où il est encore possible de se recueillir près du cercueil de la reine Elisabeth II. Dans la capitale anglaise, ce ne sont pas moins de 750 000 personnes qui sont attendues pour rendre un dernier hommage à la monarque pendant 4 jours à Westminster. Le business des influenceurs dans le viseur de la justice qui ouvre une enquête contre Shauna Evans, l'agence de Magali Berda, à la suite d'une plainte formulée par le rappeur Booba et la diffusion d'une émission avant-hier soir. Magali Berda sera d'ailleurs l'invitée de Philippe Vandel ce matin sur Europe 1.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Emmanuel Macron a réuni en fin d'après-midi les journalistes de la presse présidentielle. La rencontre censée être couverte par le secret du off, comme on dit. D'après ce que vous en savez, Alexis, qu'est-ce qui s'y est dit?
Bon, d'abord avouez que c'est tout de même un peu curieux de réunir plus de 100 journalistes pour leur dire de surtout de ne rien répéter.
Oui, c'est vrai.
Bon, cela dit, les choses évidemment ont filtré, c'était d'ailleurs attendu par l'Élysée. Et à l'arrivée, mis à part la question de la fin de vie sur laquelle Emmanuel Macron a clairement manifesté son intention de bouger, c'est-à-dire qu'on prenait de faire accepter à la société française le suicide assisté et l'euthanasie, mis à part cela donc, rien de bien nouveau. Emmanuel Macron, comme on dit, a souhaité, une fois encore, préciser le cap. Un cap qu'on a parfois, il est vrai, un peu de mal à discerner. Il a sans doute voulu aussi essayer de dissiper ce drôle de climat qui plane sur l'Élysée, un climat que votre journaliste Alexandre Chauveau a fort bien décrit ici même là, au journal hier matin, en racontant comment certains proches du président s'interrogent à voix haute sur son moral et sur sa détermination à prendre à bras le corps les problèmes du pays.
Ouais, le papier d'Alexandre est à retrouver d'ailleurs sur Europe1.fr. Alors c'est la théorie du coup de blues. Qu'est-ce qui peut bien nourrir ce sentiment chez le président, Alexis ?
Bon, on ne va pas refaire tout le film, mais rappelons tout de même quelques épisodes depuis la réélection d'Emmanuel Macron. D'abord, au soir de la victoire, cette bizarre allocution sur le Champ de Mars, sans joie véritable ni élan politique. Ensuite, cette drôle de campagne législative où le président a donné le sentiment de dériver à gauche, mais sans jamais fixer un cap ni afficher un projet clair. Je passe sur les difficultés qu'il a eues après à composer son équipe, les rebuffades qu'il a essuyées, la nomination d'une première ministre qui finalement s'en tire pas si mal, mais qui n'était pas, chacun l'a compris, son premier choix. Et puis, plus près de nous, il y a cette idée baroque de Conseil national de la refondation. Vous savez, idée qui convainc à peu près personne, et à laquelle pourtant il continue de s'accrocher contre vents et marées. Alors tout ça, ce sont que quelques exemples, mais qui montrent bien comment Emmanuel Macron, dont on n'est pas obligé de partager toutes les options, mais en qui chacun a toujours reconnu un brillant communicant, un tacticien hors pair, comment ce président-là est tout à coup un peu comme à côté de la plaque.
Comment vous expliquez cela, Alexis ?
Bah ça, j'en sais rien. Et en vérité, il faut le dire, personne n'en sait rien. Est-ce que c'est la lassitude qui suit la conquête ? Est-ce que c'est la certitude que cette victoire ne peut être que la dernière ? Bon, allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme. Ce que je sais, en revanche, c'est que Emmanuel Macron ne pourra pas indéfiniment se contenter de dire ou de faire dire que son seul but est désormais d'éviter l'élection de Marine Le Pen dans 5 ans. Certes, on peut comprendre qu'il y pense. On a même le droit de partager son souci. Mais enfin, ça ne peut pas être le seul et unique objectif du quinquennat. Emmanuel Macron devrait bien un jour nous expliquer ce qu'il compte faire positivement de son mandat. Alors on nous dit, oui, mais la politique intérieure l'ennuie. Et c'est vrai qu'elle est souvent médiocre. On nous dit aussi, ah bah il ne s'intéresse plus qu'à l'international parce que c'est dans les crises que son tempérament s'épanouit. Et on peut le comprendre, tous les présidents à peu près sont passés par là. Mais enfin, s'il s'agit de crise, la crise de l'école, c'est pas tout à fait rien. Ouais. La crise de l'hôpital, oui. La débâcle du nucléaire, la crise de notre politique d'immigration. Voilà quand même quelques crises qui mériteraient sûrement qu'on y consacre son énergie, vous pensez pas ?
Oui.
Je vais vous dire, moi je ne sais pas si Emmanuel Macron s'ennuie, mais ce que je sais, c'est qu'avec ces crises-là, il me semble qu'il y a au moins de quoi occuper encore 3 présidents pendant 6 quinquennats.
Merci beaucoup Alexis Brézé. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, comment les Ukrainiens font reculer l'armée russe, 7h57.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Tiens Alexis, j'ai un autre sujet qui pourrait bien occuper 3 présidents pendant 6 quinquennats. La réindustrialisation du pays, c'est le grand sujet de notre invité. De celui de Sania Mabrouk à 8h13, Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, sera avec nous. 7h57. Nous sommes le mardi 13 septembre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, la droite et l'extrême droite unies vont-elles remporter les élections législatives en Suède ? Les premiers résultats leur semblent favorables. Nous serons en direct dès l'ouverture de ce journal avec notre envoyé spécial à Stockholm, Alexandre Chauveau. Des milliers de personnes devant la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, encore ce matin, pour rendre un dernier hommage à Elisabeth II. Ils seront encore plus nombreux dès demain à Londres, correspondance en Écosse et dans la capitale britannique dans un instant. Et puis les succès militaires s'enchaînent pour les troupes ukrainiennes. Volodymyr Zelensky les revendique haut et fort. Moscou reconnaît pas perdre du terrain. Focus dans ce journal sur le rôle du renseignement américain. Et à 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Au moment où l'on s'interroge plus que jamais sur notre industrie, sur les choix de nos gouvernants, un livre vient d'écrire de manière implacable ce lent processus de désindustrialisation. C'est édifiant. Son auteur, le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq, il est notre invité.
À tout à l'heure.
Europe. Europe 1.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avant de partir en Grande-Bretagne pour suivre les hommages à la reine, cette question qu'on se pose ce matin sur Europe 1. Pourquoi la droite traditionnelle et l'extrême droite gagnent-elles de plus en plus de terrain en Europe? On s'est arrêté sur le cas de la Suède. Là-bas, on attend le résultat définitif des élections législatives demain. Les conservateurs et l'extrême droite du Parti démocrate, un temps jugé infréquentable, se sont alliés et ils font course en tête. Pour en parler, Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 est à Stockholm ce matin. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
En Suède, la gauche est au pouvoir depuis 8 ans. Alors comment, Alexandre, comment l'extrême droite a-t-elle pu devenir à ce point incontournable ?
Eh bien, c'est le fruit d'une longue entreprise de dédiabolisation débutée au milieu des années 2000 pour rompre avec les racines néo-nazies du parti. Les démocrates de Suède font leur entrée au Parlement en 2010 et depuis, le parti progresse d'élection en élection avec un fort discours anti-immigration. Et lors de ces législatives, la campagne a justement été dominée par cette question, tout comme celle de l'inflation et surtout de l'insécurité. Alors que la Suède a rejoint récemment le haut du classement des pays en Europe qui compte le plus d'homicides par nombre d'habitants. Alors politiquement, ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs qui juraient par le passé ne jamais faire d'alliance avec les démocrates de Suède, eh bien sont obligés aujourd'hui de composer avec les 20% du parti d'extrême droite pour former une coalition et revenir au pouvoir. Alors de là à entrer au gouvernement, rien n'est moins sûr car les autres partis de centre droit s'y opposent pour l'instant. Ce sera en tout cas l'objet d'âpres négociations et cela devrait prendre du temps. En 2018, la formation du gouvernement avait pris plus de 4 mois.
Merci Alexandre Chauveau, envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm.
Alors ce qui pousse dans le dos clairement les démocrates de Suède, hein, cette force politique que l'on qualifie d'extrême droite, mais bon, faudra affiner, on le fera tout à l'heure à 8h40, ce sont les questions d'immigration et de sécurité, et c'est aussi le cas en Italie, en Espagne et chez nous en France.
Oui, mais pas d'alliance entre LR et RN chez nous en France. Comment l'expliquer ? Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, est à l'invité d'Europe 1 ce matin.
Il y a une raison en France, je pense, parmi d'autres, hein, c'est que nous avons une élection présidentielle au suffrage universel direct et donc l'union doit se faire au profit d'une personne qui sera présentée pour devenir chef de l'État avec de vrais pouvoirs.
Le mode de scrutin ne favorise pas ce
le
type d'alliance.
Le système institutionnel, qui est très favorable à ce type de force politique, n'est pas favorable à ce type de coalition, même si elle peut avoir lieu. Alors que dans les pays que nous avons cités, que vous avez cités, l'Espagne, l'Italie ou la Suède, ce sont des systèmes parlementaristes qui reposent souvent sur un mode de scrutin et des coalitions plus appropriées pour ce genre de rapprochement.
Dominique Régnier, invité d'Europe Matin, il y a quelques minutes.
Voilà, un très entretien à retrouver en intégralité sur europe1.fr. Il est 8h04, jusqu'à 7 heures d'attente pour dire adieu à Elisabeth II. Depuis hier soir, hein, les Écossais font preuve d'une dévotion exceptionnelle.
Oui, ils n'avaient qu'une seule nuit pour voir le cercueil royal et se recueillir et ils ne s'en sont pas privés. Bonjour Thibaut Hue.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Édimbourg. Vous avez passé la nuit auprès des sujets de Sa Majesté qui voulaient rendre hommage à la reine. Vous la voyez, vous, ce matin encore, cette ferveur écossaise ?
Eh oui, tout à fait. Édimbourg n'a pas dormi, ça semble presque irréel. Des milliers de personnes se tiennent en ce moment les unes derrière les autres et attendent de pénétrer dans la cathédrale Saint-Gilles. Elles ont attendu toute la nuit, de longues heures, dans le froid sans presque bouger. Et pourtant, il fait à peine 10 degrés ici, mais ça n'a pas fait peur à Kim, un café à la main. Elle est ici depuis 4 heures du matin.
On est venu ici tôt pour faire la queue avant d'aller travailler. On veut voir la reine, on veut faire partie de ça, comme tout le monde ici. J'ai pris avec moi un manteau et un bonnet, comme ça j'ai bien chaud, je suis très bien. Et ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Attendre, c'est un temps très paisible pour moi. J'ai le temps de rassembler mes pensées.
Et après des heures d'attente, c'est un moment très intimiste avec le cercueil de la reine qui s'offre aux courageux. À la sortie de la cathédrale, j'ai croisé Kimberly, vêtue d'un long manteau noir et les larmes aux yeux.
C'est très émouvant et bien sûr c'est très silencieux. Je me sens tellement chanceuse d'avoir vécu lorsqu'elle était sur le trône. Et je sentais que je ne pouvais pas la laisser partir sans lui exprimer ma reconnaissance. Ici, bien sûr, c'est la reine des Écossais.
Et il ne reste plus que seulement quelques heures pour pouvoir apercevoir Elisabeth II. Elle quittera Édimbourg pour rejoindre Londres par avion en fin de journée.
Thibaut Hue en direct d'Édimbourg pour Europe 1. Justement, on part à Londres. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial dans la capitale britannique. Le cercueil de la reine passera la nuit à Buckingham Palace. Dès demain, les Londoniens pourront lui rendre un dernier hommage au palais de Westminster jusqu'aux obsèques lundi. On attend près d'1 million de personnes à Londres, Stéphane.
Oui, exactement. Et alors que le cercueil n'y sera donc acheminé que demain après-midi, des Britanniques viennent passer déjà la nuit devant Westminster Hall sur une chaise pliante. Le camping est interdit, avec de quoi manger et se couvrir pour être certain donc d'accéder à l'intérieur de l'édifice. Il faut dire que l'on attend ici, rappelle le Times, 750 000 personnes au moins pour venir rendre cet ultime hommage à Elisabeth II. Une file d'attente qui devrait s'allonger sur des kilomètres au cœur de la capitale. Une trentaine pariait hier un chauffeur de taxi qui s'attend à multiplier les courses ces prochains jours, d'où l'installation aussi de toilettes portables devant Westminster, des barrières naturellement, un dispositif de sécurité qui rappelle celui des aéroports avec la remise d'un bracelet à l'entrée qu'il faudra retirer à la sortie, aucune fleur, aucune bougie ou peluche, rien de tout cela ne pourra être déposé, et pas question non plus de prendre des photos ou des vidéos avec son téléphone, chacun sera invité à garder le silence, à ne pas porter des vêtements avec des slogans politiques ou offensants, selon les directives qui ont été publiées hier soir.
Merci beaucoup Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
8h07, est-ce que nous sommes à un tournant dans le conflit ukrainien? Les forces russes continuent de reculer face à la contre-offensive de l'armée de Kiev.
Volodymyr Zelensky assure désormais que 6000 km² de terrain ont été récupérés, des villages de la région de Kharkiv au nord-est et autour de Kherson dans le sud-est. Question, comment une telle percée a-t-elle été possible ces derniers jours? Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Il s'avère que les Ukrainiens se sont notamment appuyés sur le renseignement américain.
Oui, la coopération s'est faite plus intense ces dernières semaines pour mieux préparer cette contre-offensive à l'œuvre depuis plusieurs jours. Une stratégie que Kiev voulait d'abord garder secrète avant finalement de décider de communiquer ses plans avec Washington. Des discussions constantes ont eu lieu au cours de l'été. Elles ont permis aux États-Unis de fournir des informations précises sur les faiblesses de l'armée russe sur le terrain. Mark Warner dirige la commission du renseignement du Sénat à Washington et pour lui, cette contre-offensive est la preuve de la force de la coopération militaire entre les deux pays.
Le renseignement qui travaille avec les Ukrainiens et nos amis britanniques a vraiment pris par surprise les Russes et Vladimir Poutine. On va voir maintenant comment ça va se passer, mais il est clair que Moscou s'attendait à une offensive dans le sud et pas dans le nord-est.
Depuis le début de la guerre, Washington voit clair dans le jeu de la Russie. C'est une arme extrêmement efficace pour l'Ukraine. Les renseignements américains ont déjà permis de frapper des postes de commandement russes et de tuer plusieurs généraux ennemis. Mais pour les officiels américains, cette contre-offensive démontre surtout une nouvelle fois les problèmes logistiques et de communication de la Russie qui mine son avancée depuis le début de la guerre.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Allez, on termine ce journal en culture avec un artiste plein d'humour.
André Devambaise, illustrateur humoristique du début du 20e siècle, un inclassable à l'imagination débordante que le Petit Palais à Paris a décidé de mettre en lumière. Découverte Marie Jiquel.
Connaissez-vous le dirigeable au bus? Cette invention sortie de l'esprit farceur de Devambaise et couchée sur papier pourrait nous être utile avec les travaux parisiens. Annick Lemoine, la directrice du Petit Palais, a adoré travailler sur cet illustrateur, membre de la Société des artistes humoristes.
Il invente aussi de nouveaux moyens de transport, dont un certain dirigeable au bus qui va permettre de survoler la place de l'Opéra, encombrée par des embouteillages effrayants.
Les œuvres de Devambaise, centenaires pour la plupart, n'ont pas pris une ride. Son style rappelle même nos mangas, comme cette planche représentant les usagers du métro, une centaine de petits personnages aux expressions toutes différentes.
Devambaise est un observateur inlassable et il aime peindre la foule. On va retrouver ce goût pour la foule grouillant, tous ces petits personnages. Et à nouveau, c'est le témoignage de cette vie moderne. Le métro, c'est la modernité qu'il fascine et qu'il va prendre pour sujet, ce qui est quand même tout à fait original.
D'autres facéties attendent le visiteur, dessins sur vaisselle, illustrations jeunesse ou tableaux de la taille d'une main.
Marie Jiquel de Vambèze au Petit Palais à Paris, à découvrir jusqu'au 31 décembre avec votre radio Europe 1, évidemment.
Merci beaucoup Fanny Marceau. Dans un instant, restez avec nous Nicolas Dufour, que le directeur général de BPI France, la Banque publique d'investissement, est l'invité de Sonia Mabrouk.
Europe 1.
Il est 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le directeur général de BPI France.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Nicolas Dufour.
Bonjour.
Vous êtes, comme vient de le rappeler Dimitri, le directeur général de la BPI France et la banque publique d'investissement, et ce depuis la création en 2013. Au moment où l'on s'interroge plus que jamais sur l'état de notre industrie à l'aune de la crise énergétique, votre livre raconte l'histoire d'une désindustrialisation massive de la France entre 1995 et 2015, deux décennies au cours desquelles la France va se vider
écoutez bien, de la moitié de ces usines, du tiers de ces emplois industriels. Et vous avez cette image forte, on va commencer par cela, d'une bataille que la France, ou en tous les cas ses dirigeants, ne parviennent pas à déchiffrer. Nous étions perdus sur un champ de bataille.
Oui, et puis on était aussi distrait par notre propre imaginaire. Notre imaginaire nous emmenait vers une économie de service, vers des protections toujours supplémentaires pour légitimes d'ailleurs, hein, pour le peuple français. Et nous ne regardions juste plus cette industrie qui était en train de tomber juste à côté de nous. Vous savez, ça nous arrive souvent, hein, les uns les autres, de passer à côté de quelque chose d'essentiel et de ne pas le voir. Voilà, nous étions occupés à autre chose. La France allait bien en 95, dans ces années où l'Allemagne n'allait pas si bien que ça. Donc on se disait, après tout, si l'Allemagne va mal, c'est que tout va bien pour nous. Sauf que il fallait préparer la mondialisation. Avec la mondialisation, avec la Chine qui rentre dans l'OMC en décembre 2001, elle ne permettait pas les 35 heures au 1er janvier 2002.
Justement, l'accélération de la désindustrialisation, vous la situez entre 1995 et 2003 précisément. Et vous dites, Nicolas Dufour, que tout le monde a ses empreintes digitales sur la désindustrialisation du pays. Mais vous êtes particulièrement dur, ou bien lucide, au choix sur les réformes de la gauche, en particulier le coup de grâce, les 35 heures qui auront fini de déstabiliser l'industrie française. Oui. D'ailleurs, on va fêter un anniversaire là prochainement.
En fait, les 35 heures, l'erreur, elle est liée au fait que on a pensé que tout était indistinct, c'est-à-dire qu'une PME, ça ressemblait à un grand groupe, qu'une TPE, ça ressemblait à une PME. Mais non, mais pas du tout. C'était une loi qui était une loi extrêmement difficile à mettre en œuvre, d'ailleurs extrêmement coûteuse, puisqu'on a financé les 35 heures par de la dette. Hein. Au fond, on a endetté la France, donc nos enfants, pour permettre aux actifs de l'époque d'avoir du temps libre. Et ça, les patrons de PME, du point de vue moral, ils ne l'ont pas compris, et du point de vue technique, ça a totalement déstabilisé leur action. Hein. Et ça, on ne l'avait pas anticipé. Mais c'est toute la société française qui montait vers une demande de partage du travail à l'époque,
mais
parce qu'on était en chômage de masse.
Pourquoi on ne veut pas voir le réel ? Pourquoi on ne veut pas savoir comment fonctionne l'assurance maladie, les allocations familiales, le régime de retraite ? Pourquoi on ne veut pas le voir et le savoir ?
Alors, merci de poser la question, parce que je pense que c'est l'un des fondements des raisons pour lesquelles nous n'allons pas si bien finalement. Hein. Eh bien, j'ai envie d'appeler ça l'histoire du temps présent. C'est compliqué, une société moderne, il faut la raconter sans cesse. Et peut-être qu'on ne la raconte pas assez. Peut-être qu'on... Alors, il y a un problème d'éducation en sciences économiques, oui. Mais c'est surtout, même aux adultes, qu'on ne raconte plus vraiment comment fonctionne un État-providence, comment il s'équilibre, quelles sont ses règles fondamentales. Et on est dans une sorte de fuite en avant du divertissement, finalement. Mais la société contemporaine, hyper complexe, montre suisse, elle n'est pas racontée.
Une fuite en avant, alors qu'on avait à l'époque, on a toujours un mur face à nous, c'est le chômage de masse qui frappe la France.
Oui.
Et on laisse penser, Nicolas Dufour, que la solution, ce sont les services et surtout pas l'industrie.
C'est ça. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un mouvement de nos mentalités qui monte très lentement dans les années 70. Hein. Y compris d'ailleurs dans la gauche, à droite également, il faut se souvenir que le partage du travail commence avec la loi de Robien, et qui monte également dans les fédérations syndicales, où progressivement ce sont les fédérations de services qui prennent le pouvoir dans les confédérations. Et donc c'est très profond dans la société française. Hein. Alors ça vient de quoi ? Ça vient de la désindustrialisation des années 70 qui a été dramatique, fin des charbonnages, fin de l'acier, etc. Mais que tous les pays européens ont vécu. La spécialité de la France, c'est que on a vécu une deuxième période de désindustrialisation qui commence à la fin des années 90, que les autres pays n'ont pas vécu.
C'est important parce qu'il y a trois pays finalement qui ont massivement désindustrialisé, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et vous dites, les autres pays sont relativement épargnés, mais en 95, la lame de fond, elle va frapper, faucher la France. Pourquoi cette spécificité ?
Alors d'abord, on pensait qu'on était préparé à la mondialisation parce qu'on était assez fiers d'avoir résisté au Japon. Figurez-vous, hein. Les jeunes qui nous écoutent ne peuvent pas savoir que notre angoisse des années 80, c'était pas du tout la Chine, qui n'existait pas à l'époque, Tiananmen c'est 89, hein. C'était le Japon. Le Japon avec, effectivement, hyper puissant à l'époque, c'était la grande époque de Akio Morita Sony, le Japon avait des parts de marché énormes aux États-Unis, et la France avait préservé ses parts de marché face au Japon. Donc si on avait résisté au Japon, on pouvait sans doute résister à ce continent improbable, encore dans l'ombre, qui était la Chine. Sauf qu'on n'a pas vu que la Chine, c'était 20 Japon. Et que, par ailleurs, elle était beaucoup plus agressive que le Japon.
Japon.
Que le Japon ne l'avait jamais été. Et donc, on va se dire, on ne s'est pas du tout préparé à l'entrée de la
Chine.
Oui,
mais qui est ce « on » Nicolas Dufour, on va rentrer dans les détails. Il y a aussi les élites, entre guillemets, c'est ce que vous dites, page 110. Une large partie des élites se détournent, mais complètement tournent le dos à l'industrie. Est-ce qu'ils ne vont pas planter ainsi les premiers clous dans le cercueil en pensant que vraiment, ce sont la voie royale, ce sont les services ? La finance,
alors,
les services.
Le mot élite est toujours un peu connoté parce qu'on a l'impression que c'est une espèce d'aristocratie supérieure d'héritiers. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui ont passé les concours républicains et qui viennent parfois de très très loin dans la société française, mais qui sont les chefs. Bon. À cette époque-là, les grandes entreprises industrielles françaises se projettent à l'étranger, massivement. Et donc aujourd'hui,
parfois en Italie ou en Allemagne. Hein. Pas très loin de la France.
Oui, absolument. Europe de l'Est, Amérique latine, Mexique, énormément. Bon, aujourd'hui, l'industrie française, elle a 6 millions de salariés à l'étranger. 6 millions, voilà. C'est-à-dire qu'elle a 5 fois plus de salariés à l'étranger en proportion que l'industrie espagnole. Et presque 3 fois plus que l'industrie allemande. Donc, l'élite industrielle française, elle a pris sa décision. L'industrie, désormais, c'est plus jamais ici, en France. C'est là-bas.
Là, pardonnez-moi, c'est dévastateur.
C'est dévastateur pour l'emploi en France, c'est clair, pour l'accumulation de compétences, parce qu'ensuite tout ça c'est des châteaux de cartes qui tombent, il y a beaucoup de petits savoir-faire qui meurent, etc. Mais elle a ses raisons aussi, c'est qu'il devient très difficile de faire de l'industrie en France à l'époque, c'est vrai aussi. Alors cette fameuse élite dont vous parlez, par ailleurs, elle se projette également massivement vers les nouvelles industries financières. Les polytechniciens vont dans la banque, massivement, et la France joue le jeu de la mondialisation financière.
Et ça va infuser dans les esprits. C'est ce qui nous a passionnés avec Dimitri Pavlenko en lisant votre ouvrage, c'est que, y compris au sein des familles françaises de l'époque, ils préfèrent avoir, je vais le dire ainsi, des enfants fonctionnaires plutôt que des enfants dans l'industrie. C'est-à-dire que dans le psyché national, ça va jouer.
Alors, au début de l'année 2000, effectivement, après 15 ans de chômage de masse, les sondages sont terribles puisque, en effet, 70% des jeunes Français disent vouloir être fonctionnaires. C'est-à-dire que là aussi, notre imaginaire du début des années 2000, alors qu'on est en pleine guerre mondiale économique, d'une violence infinie, pour avoir une image, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans l'économie mondiale à l'époque. Eh ben, nous, on rêve d'un monde stable, sur les rails, avec des vies longues, prévisibles. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que notre monde contemporain est capable de nous offrir. Donc, on va dire, faute de compréhension radicale. Évidemment, tout a changé depuis, c'est ça qu'il faut célébrer.
On va en parler, mais qui nous inculque ça ? Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour cela qu'on tire le fil de la pelote avec vous. Il y a aussi ce que vous appelez la germination des imaginaires, l'éducation nationale. La communauté enseignante, est-ce qu'elle dédaignait l'industrie ? Les lycées professionnels étaient déjà dénigrés. Est-ce qu'elle a contribué à affaiblir notre industrie ? Dans votre livre, c'est assez éloquent. La réponse est claire.
Là aussi, c'est des mouvements profonds, sociétaux. Hein. C'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre. C'est qu'il n'y a pas... Je n'ai jamais cru qu'il puisse y avoir un coupable bouc émissaire. Ça n'existe pas. Tout vient des couches profondes et des forces sociales. Et donc, l'éducation nationale, elle avait... toute une couche d'enseignants qui étaient des professionnels de l'industrie dans les lycées professionnels qui sont partis à la retraite à la fin des années 70-80 et qui ont été remplacés par de nouvelles générations de profs qui n'étaient pas du tout de cette culture-là, mais qui étaient plutôt d'une culture servicielle, d'une culture post-68 ans, on va dire.
Donc ils ont accéléré ce mouvement
et
également.
Alors arrive à ce moment-là la réforme de Jean-Pierre Chevènement du Collège Unique et puis de 80% de classe d'âge au bac, mais Chevènement voulait 80% au niveau du bac, pas au bac. Hein. Et donc, dans son esprit, c'était donner ses heures de gloire à l'enseignement professionnel, considéré comme aussi élogieux que l'enseignement des autres. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et on peut dire que sa réforme a été totalement dévoyée, puisque l'enseignement professionnel est devenu la poubelle de l'éducation nationale. Ouais. Il faut le dire tel que, à l'époque, hein, de plus en plus. Alors, le travail qui est fait depuis par quantité de gouvernements pour recoudre, reconstruire, il faut le saluer. Mais c'est difficile, ça prend du temps. Et je pense que l'éducation nationale aujourd'hui, par les contacts que j'ai avec beaucoup de gens chez eux, hein, est prête maintenant.
Et Nicolas Dufour, ce constat va aussi se voir à travers une carte presque géographique, puisqu'à l'époque, tout le monde préfère faire partie de la bourgeoisie des villes, avoir bac plus 5. Et on va voir finalement, c'est ce que vous décrivez dans votre livre, c'est presque palpable, hein, c'est assez incroyable. Oui. On se dit quel gâchis de nombreuses communes et vallées industrielles qui vont être carrément nettoyées de la carte.
Tout à fait. Tout à fait.
Nettoyer de la carte.
Alors, pour positiver, effectivement, depuis une dizaine d'années,
on est en rebond, et on est en sursaut par rapport à tout ça, avec un rééquipement des territoires. Il y a un programme que j'aime bien citer qui s'appelle Territoires d'industrie. Il y en a 74 en France, qui sont justement ces petits territoires. Cette semaine, j'étais dans un territoire qui s'appelle les Mauges, par exemple. Mm-hmm. Qui connaît les Mauges? Les Mauges, c'est au sud d'Angers. Bon, vous allez au sud d'Angers, vous avez des usines partout. Ça ressemble au Mittelstand allemand. Eh bien, il y en avait beaucoup en France. Et ils se sont vidés. On est en train de les repeupler avec de nouvelles usines. Donc la beauté du moment qu'on vit, là, c'est que, un, on a pris conscience de ce qui s'était passé. Donc on est tout le monde dans le plus jamais ça. Et deux, il y a quantité de facteurs qui ont changé et qui permettent d'espérer, et on le fait, on le prouve toutes les semaines à la BPI, réindustrialiser la France.
Donc la France ne macère plus, parce que vous avez eu cette expression qui est assez frappante, vous dites la France macère. On a l'impression qu'on est dans ce marécage, qu'on est là, qu'on est un petit peu dans des sables mouvants et qu'on n'arrive pas à s'en sortir.
Oui, non, j'ai dit ça effectivement dans une tribune cette semaine, une manière d'évoquer une conviction que j'ai et qu'on est très nombreux à avoir à la BPI, à savoir que, et on le voit bien avec nos entrepreneurs, quantité de Français ne sont pas à leur potentiel. Les Français sont très bons, hein. Ils sont féconds, ils sont créatifs, etc.
On a des infrastructures, des ingénieurs, des idées. Qu'est-ce qui nous manque alors? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi la France macère aujourd'hui? De quoi?
La peur de soi, le manque de confiance en soi, vous savez, la peur, on ne sait jamais de quoi on a peur en réalité. Et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de Français qui acceptent des vies qui ne sont pas à leur dimension. Parce que, en fait, ils ne naviguent pas leur vie d'une certaine manière. C'est facile à dire, évidemment, donc je peux être fortement critiqué pour ce que je dis en disant il faut naviguer sa vie. Bâbord, tribord, aller chercher sa chance, aller chercher son vent. L'État-providence français est le plus généreux d'Europe. Il protège incroyablement les Français, beaucoup plus que nos anciens de 1992, des anciens de 1972. Mm-hmm. Et donc, j'ai envie de dire, plus on est protégé, et on l'est, mais de plus en plus, chaque année encore plus on peut prendre des risques et aller chercher sa chance d'une certaine manière.
Ou alors, on est anesthésié par cette protection. L'État-providence, aujourd'hui, l'État nounou nous a finalement mis dans une sorte de formalisation des esprits, c'est pour ça que vous dites que la France macère. C'est un risque aujourd'hui, cet État nounou, cet État providence.
Le risque, c'est de se dire si l'État providence anesthésie, à ce moment-là, il faut le réduire. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que la plupart des protections sont légitimes. Et j'entends bien que les Français, de toute façon, n'accepteront pas qu'on les réduise. Donc, je préfère dire l'inverse, être positif et dire puisqu'on est protégé. Très, 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 très protégé à tout moment, y compris par la BPI pour les entrepreneurs, c'est le service public des entrepreneurs.
Bien sûr.
Et bien, allons-y.
Mais c'est rare que quelqu'un comme vous, un acteur à l'intérieur du système, vous êtes le directeur, on l'a rappelé, général de la BPI, tire la sonnette d'alarme à l'intérieur du système. Quand vous dites la France macère, on entend bien, c'est le moment que il faut repartir.
Oui, je dis que si nous avons 7% de chômage alors que tous les autres ont 3%, c'est qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ne sont pas en action. Hein, c'est pas qu'ils soient au chômage, c'est qu'ils ne se sont pas mis en action. C'est ça que j'appelle la macération. Je pense que le pays peut faire 100 fois mieux.
Oui,
il n'est pas à son potentiel.
Vous n'êtes pas pessimiste non plus dans le livre, au contraire. Vous dites qu'on a une économie compétitive, vous dites que l'industrie, il faut la désirer. En fait, Nicolas Dufour, il faut que tout le monde s'y mette.
Oui,
que ce soit une sorte de cause nationale.
Absolument. En plus, encore une fois, l'industrie, ça se visite. Les usines qu'on est en train de faire monter aujourd'hui, qui sont électriques, décarbonées, 100% digitales, qui sortent des objets dont la France peut être absolument fière, qui sont ensuite exportés à 95% dans le monde entier, c'est un très très beau sujet. Et ça correspond parfaitement aux besoins de quantité de nos concitoyens qui ne vont pas passer leur vie devant un écran avec une souris, qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin d'une vie complète, que l'industrie offre autant que la gastronomie offre. J'ai toujours dit que si les Français aimaient Top Chef, ils allaient aimer Top Fab. Hein, il faut faire Top Fab. Et donc là, vous avez à mon revers le coq bleu de la French Fab. La French Fab, c'est le mouvement des industriels français qui ont relevé le défi de la Renaissance et qui sont en train de le prouver, puisque depuis maintenant 2 ans, nous ouvrons beaucoup plus d'usines que nous n'en fermons en France.
Et donc le monde des possibles est devant nous. En tout cas, c'était passionnant d'explorer cette histoire industrielle. Il est vrai méconnu entre 1995 et 2015 et nous tenions à le faire ce matin à notre micro alors qu'on s'interroge beaucoup justement sur notre industrie. Merci beaucoup Nicolas Dufour et bonne journée à vous et à nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Je retiens cette phrase d'espoir, hein. Les Français sont très bons mais beaucoup ne sont pas à leur potentiel. Voilà un bon programme pour le pays. Merci Nicolas Dufour d'être venu sur Europe 1. Merci Sonia.
Bonne journée à vous. Dans un instant, Yann Moix, notre signature du jour. Et juste après, Emmanuel Ducrot et nos deux bavards du club de la presse du jour, si je puis dire. Enfin, le bavard, c'est pas très sympa. François Calfon, Mathieu Bocoté. On va revenir sur cette situation politique en Suède absolument passionnante. A tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h31, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamarre.
Le feu continue de progresser dans le Médoc. 1300 hectares sont partis en fumée, estimation de la préfecture de Gironde. Il faudra encore attendre avant d'avoir un bilan définitif. 540 habitants de Somos et des communes environnantes ont dû être évacués. 340 pompiers restent mobilisés. La piste criminelle est envisagée par les gendarmes alors qu'une enquête vient d'être ouverte. L'Écosse continue de dire adieu à la reine Elisabeth II. File d'attente quasiment ininterrompue devant la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Plusieurs heures d'attente avant de pouvoir se recueillir devant le cercueil de la souveraine. Après Édimbourg, Londres s'apprête à son tour à accueillir le convoi funéraire dans la soirée. La dépouille d'Elisabeth II sera exposée au palais de Westminster pour permettre aux Londoniens et aux nombreux touristes de se recueillir. Au moins 750 000 personnes sont attendues d'ici lundi, date des funérailles. En Ukraine, la contre-offensive de Kiev enfonce les lignes de défense russes dans le nord-est. Le président Volodymyr Zelensky affirme que son armée a libéré une vingtaine de villes et repris près de 6 000 km². Emmanuel Macron en déplacement au Sable d'Olonne en Vendée. Le chef de l'État doit présenter son projet de réforme de la voie professionnelle. 3 axes prioritaires. Renforcer l'attractivité des lycées professionnels. Permettre aux jeunes qui ont choisi cette voie de poursuivre leurs études tout en améliorant leur insertion professionnelle. Aurélien Pradier, candidat officiel à la succession de Christian Jacob à la tête des Républicains. Le député du Lot vient s'ajouter à une liste de prétendants qui comprend Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Nous sommes en danger de mort. Il faut tout changer, dit-il ce matin au Figaro. Le nom, le siège, l'organisation, jusqu'au message politique. Match de Ligue des Champions sous haute tension ce soir à Marseille. L'OM reçoit Francfort et ses 10 000 supporters avec ou sans billets. Premiers incidents hier entre supporters des deux clubs et premières interpellations. Marseille-Francfort, coup d'envoi à 21h. À suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport.
Merci beaucoup Christophe. Le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Anissa Haddadi, un mardi bien gris en perspective.
Oh oui, c'est couvert sur toute la France. Tout le monde a droit à un ciel bien gris aujourd'hui, sauf les grands gagnants du jour qui se trouvent le long de la façade est du pays. Alsace, Alpes, Côte d'Azur, Corse. Vous avez du soleil ce matin, profitez-en, et cet après-midi uniquement pour la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Effectivement, c'est très couvert, et cet après-midi, avec les fortes chaleurs d'hier, on attend un épisode orageux, parfois fort. Ça va être très fort sur le Languedoc, sur les Cévennes, sur le Massif central et la Bourgogne. Là, on va avoir des orages violents avec de la grêle et de fortes rafales de vent. De toute façon, on a du vent du sud qui souffle sur tout le quart sud-ouest. Et puis, on a une deuxième cellule orageuse qui la touche l'Aquitaine et les Pays de la Loire. Alors, ce temps, il va durer encore demain. Même si sur le quart sud-ouest, c'est le retour du soleil, partout ailleurs, on va avoir des gros orages, notamment dans le sud-est. Et à partir de jeudi, retour d'un temps plus calme, retour du soleil pour un week-end qui sera ensoleillé, mais frais. Ça y est, on va pouvoir sortir les habits d'automne.
Elle a hâte, Anissa. Elle a vraiment hâte. Merci beaucoup. 8h34.
7h, 9h.
Europe Matin.
Les signatures Europe 1 et comme tous les mardis, c'est Yann Moix qui est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Dimitri.
Alors vous avez retenu cette phrase de Jean-Luc Mélenchon ce week-end à la fête de l'humain. Il dit « On va bouffer de la reine d'Angleterre pendant 10 jours ». Pourquoi cette phrase vous semble-t-elle tout sauf anodine?
Elle n'est pas innocente chez Jean-Luc Mélenchon parce que je crois que la fracture en France entre les Français vient de là. Vous savez que les Français adorent la France, mais les Français détestent les Français. Mais de quel Français parle-t-on? Je pense qu'on parle de la France du roi mort et de la France du roi vivant. C'est-à-dire de 1789, qui a toujours détesté et inversement 1793. Et les outrances verbales de Jean-Luc Mélenchon, dont celle-ci, sont la version sécularisée unplugged 3.0 du 10 août 1792, des massacres de septembre, des journées de juin 1848 et des incendies de la Commune. C'est une sorte de guillotin du verbe et il est l'héritier de cette violence.
Mais cette violence n'était en rien illégitime, Yann.
Il y a évidemment, Dimitri, des gens qui pensaient à l'époque que la violence était le seul moyen de sortir de l'horreur de leur quotidien. Simplement, je dirais que ces Français-là pensaient que la violence était un moyen, mais la France jacobine au carré de Jean-Luc Mélenchon est une France qui pense, elle, que la violence est peut-être une fin plus qu'un moyen.
Alors cette violence jacobine de 1793, l'héritage politique de Jean-Luc Mélenchon, donc, elle a aussi fait la France que nous aimons, Yann, le grand pays moderne dans lequel nous vivons librement et en paix.
Et si, Dimitri, on inversait la chose? Et si on se demandait pourquoi la France existe telle qu'elle est aujourd'hui, non pas parce que la violence l'a rendue possible, mais on peut peut-être se demander si ce n'est pas malgré cette violence que la France moderne est née. Malgré 1793, on pourrait imaginer que 1789, empêché par 1793, a réussi à se frayer un passage jusqu'à nous, mais qu'on lui a presque coupé les ailes. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais. Mais alors là, vous entrez dans un débat sur la Révolution française. Et j'ai envie de vous répondre, 89, 93, la Révolution... Elle est une,
oui,
Yann.
C'est ce que disait Clémenceau, mais je crois qu'elle n'est pas une du tout. On croit toujours que la révolution, c'est les révolutionnaires contre les contre-révolutionnaires. Ben oui. Moi, je pense que la révolution, c'est les révolutionnaires aussi contre les révolutionnaires au carré. C'est-à-dire ceux dont les mélenchonistes aujourd'hui qui ont poussé tous les curseurs liberté, égalité, fraternité au maximum de leurs possibilités, de leurs aberrations. La liberté est devenue une prison, l'égalité une religion et la fraternité une fiction.
Mais le peuple l'a voulu tout ça, Yann.
Mais qu'est-ce que vous appelez le peuple, Dimitri ? Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les Jacobins ont réussi à nous faire croire que le peuple, c'était deux choses. Macroscopiquement, que c'était les masses hurlantes qui trimballent les têtes des députés au bout d'une pique, et microscopiquement, que c'était une sorte de petite bande des parvenus de l'émeute, comme disait Jacques Bainville. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui étaient appointés, des sortes de barbouzes qui ont organisé les journées révolutionnaires et qui étaient vraiment payés pour ça. Alors moi, je veux bien, Dimitri, qu'on dise que le peuple a fait le 10 août 1792, mais alors à ce moment-là, il faut dire que le peuple allemand a fait la nuit de cristal. Les Jacobins, Dimitri, nous ont fait croire que le parti était égal à l'État et que le peuple, c'était une minorité d'excités.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est quelque part le Robespierre d'aujourd'hui, Yann ?
Alors, je vais botter en touche, mais je pense qu'il est meilleur tribun que Robespierre. Ouais. Il est bien meilleur. Robespierre était un piètre tribun. Ouais. Mais je vais vous dire, la relation qu'on peut faire entre les deux, c'est que tous les deux aimaient la dictature. Mais il n'y a pas de dictature sans dictateur, vous le savez. Mais il existe des dictateurs sans dictature. Exemple, Jean-Luc Mélenchon.
Merci beaucoup, Yann Moix. 8h38 sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Ducrot.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous.
Bonjour.
C'est toujours puissant avec Yann. Moi, je ressors songeur de ces chroniques.
Vous êtes trop bon, mon cher.
Mais parvenu de l'émeute, alors ça...
C'est de Jacques Bainville, l'expression. Jacques Bainville,
ma journée.
Grand historien, monarchiste, mais...
Qu'on ne peut pas laisser entre les mains de Zemmour.
Ouais, c'est votre point de vue. Emmanuel, le chèque alimentaire, revenons à des considérations contemporaines. Est-ce que ce chèque alimentaire va voir le jour ? Sur le papier, il a tout d'une bonne idée, ce chèque, puisque c'est une aide financière fléchée vers l'alimentation pour les plus modestes en ces temps d'inflation. Or, c'est devenu un véritable sac de nœuds.
Ah oui, vous savez, c'était un de ces éléments de la grande liste de courses de la Convention citoyenne pour le climat, peut-être parmi les plus rationnels. Un chèque pour permettre aux plus modestes de mieux se nourrir en soutenant la transition écologique de l'agriculture. Eh bien, ce chèque, c'est devenu une arlésienne. Emmanuel Macron s'en était saisi en décembre 2020. Principe acté au Parlement 6 mois plus tard. Ça faisait encore partie des promesses du candidat Macron. On parlait d'une mise en place en 2023. Mais hier matin, sur LCI, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a relégué au calende grec. Nous ne sommes pas parvenus à construire un dispositif qui soit opérationnel et rapide. Fermez le banc, rien dans le projet de loi de finances pour 2023. Plus tard, peut-être.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce chèque alimentaire tombe comme ça ? Est-ce qu'on s'est emballé autour de lui ?
Vous savez, Bercy n'a jamais été très très chaud et a toujours dit que c'était une usine à gaz. Chère l'usine à gaz, entre 2,5 et 5 milliards d'euros.
Ah oui.
Bien investi, si vous voulez mon avis, mais Bercy ne les a pas et demande au ministère concerné par le chèque, l'agriculture, la santé, de se débrouiller et de trouver des financements. Et pour qui ? Bercy a peur d'arroser sans distinction des ménages qui n'en auraient pas besoin en créant de la dette. Vous me direz, ça...
Ouais, ça rappelle le chèque carburant.
Voilà, ça n'était pas un obstacle, mais bon, c'était un petit coup en passant. Ouais. Et vous me direz aussi, c'est exactement l'effet qu'ont les promotions des prix à tout casser en grande surface qui détruisent de la valeur. Ça fait le même effet.
Alors, il y a tout un débat aussi sur ce qu'on met dans ce chèque alimentaire, de ce qu'on pourrait acheter avec, de ce à quoi on n'aurait pas droit.
Une question vraiment, vraiment pas simple. Ouais. Il faut cibler la nourriture, déjà. Première contrainte, ça ne peut pas être un virement bancaire, sinon on aura encore ces débats interminables sur les écrans plats. Personne n'en a envie. Et si c'est toute la nourriture, le chèque manquera son objectif, une alimentation saine, locale. Il pourrait même subventionner des importations à bas coût, ce qui serait quand même ballot. Mais ça ne doit pas non plus être des tickets de rationnement. D'ailleurs, les associations d'aide alimentaire mettent en garde. Pas de morale avec le chèque. Les publics précaires ont d'autres soucis que de se voir imposer de la tomate bio hors de prix ou du nutritionnellement correct. Et puis, il faut aussi trouver un système qui soit accepté dans tous les réseaux de distribution est capable de trier les produits. Je vous passe évidemment les inquiétudes concurrentielles au niveau européen si on subventionne uniquement les produits français.
Donc bye bye le chèque alimentaire, là, si je vous ai bien suivi.
Eh ben pour l'instant, oui. Il y aura bien un chèque inflation, 100 euros, versé à 10,8 millions de personnes en France le 15 septembre. Mais c'est un versement indifférencié, pas fléché, rien de spécifiquement alimentaire. Bref, il a tous les défauts que je viens de mentionner. Alors, c'est vraiment une occasion manquée en ces temps d'inflation. Je rappelle les chiffres. 5,5 millions de nos concitoyens à l'aide alimentaire. Une fracture de la nourriture. Nos concitoyens modestes souffrent plus des maladies de l'alimentation. Oui. On a raté un vrai moyen de lutte contre une inégalité révoltante dans notre pays d'abondance agricole. La promesse du chèque alimentaire, c'était un chèque sans provision et c'est très dommage.
Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, regard d'experte sur ces questions alimentaires comme d'habitude. À suivre sur Europe 1. Merci Yann aussi d'être...
Vivement l'échec stagflation.
Oui, l'échec stagflation. Dans un instant, François Calfon, Mathieu Bock-Côté pour notre club de la presse. On va aller faire un petit tour du côté de Stockholm.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h44, après 8 années gouvernées par la gauche social-démocrate, la Suède, un terre de la social-démocratie, est en passe de connaître une révolution politique. La droite conservatrice, alliée pour la première fois. Alors je dis les populistes, va falloir qu'on affine un petit peu sur ce que sont ces démocrates de Suède. Ils sont donc aux portes du pouvoir à l'issue des élections législatives qui se sont tenues là-bas. Ça mérite qu'on s'y attarde parce que la trame politique d'arrière-fond de cette bascule suédoise, en réalité vous la retrouvez un petit peu partout en Europe, y compris en France. Et tout ceci se joue également à moins de 15 jours maintenant d'élections législatives en Italie. On retrouve une configuration assez similaire avec un attelage de droite. Et le cheval qui tire le plus fort, ce n'est pas la droite de Berlusconi, non. C'est celle de Giorgia Meloni, les Fratelli d'Italia, vous savez, très proches, enfin qui viennent en fait des néo-fascistes. Tout ceci nous passionne et nous allons en parler avec François Calfon. Bonjour François, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Mathieu Bock-Côté aussi est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Essayiste, auteur de La révolution racialiste, autre virus idéologique, paru aux éditions Presse de la Cité l'an dernier. Pourquoi il faut regarder de près ce qui se passe en Suède, Mathieu?
On voit une recomposition, la recomposition politique suédoise se fait en accéléré dans un système électoral, il faut le dire, qui permet et accélère et favorise cette recomposition. Mmh. C'est-à-dire que dès lors qu'on est avec un système électoral qui force les différents partis à entrer dans une logique de compromis à travers des grands blocs de partis, oui. Et dans ces blocs, reste à voir lequel est le plus puissant, ils sont obligés de s'entendre d'une manière ou de l'autre. Ensuite, il y a une évolution dans le rapport aux démocrates de Suède que vous avez évoqué. C'était un parti marqué du saut de l'infréquentabilité pendant longtemps.
Et créé par des néo-nazis
mais qui a connu une mue assez totale. C'est assez fascinant de voir, c'est un parti qui s'est affranchi de ses origines, bien qu'on cherche toujours à l'y ramener, ça, mais vous avez raison sur ses origines. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce parti lui-même est passé de l'infréquentabilité absolue à une forme de normalisation progressive. Et aujourd'hui, plusieurs se croient même appelés à coopérer avec lui. Oui. Parce que la logique souvent que les partis populistes en Scandinavie, c'est celle de le soutien sans participation.
Soutien depuis l'extérieur.
Voilà. Exactement, oui. Comme on l'a vu au Danemark notamment. Donc on vous soutient, mais on ne participe pas au gouvernement. Et c'était le scénario dans la présente campagne. Et là, le parti est tellement... Les démocrates de Suède sont tellement forts qu'on se demande s'ils ne participeront pas d'une manière ou de l'autre. Mais donc tout ça, c'est l'évolution des codes de la respectabilité politique et l'obligation pour les partis dits de droite d'intégrer la part populiste.
Alors, on ne va pas trop rentrer dans le marigot politique suédois parce que c'est un petit peu compliqué, mais on retient deux choses de cette histoire. D'abord, une idée d'union des droites, et puis l'autre chose, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire comment expliquer qu'un parti qui faisait 1,5% il y a 20 ans fait plus de 20% aujourd'hui sur un programme très dur sur les questions de sécurité et d'immigration, et ben voilà. Le multiculturalisme et l'immigration sont au centre du débat politique en Suède, François Calfon.
Il faut quand même rappeler, puisque vous tentez de mettre la vaisselle cassée sous le tapis, que l'un est un parti issu de la fascination de Mussolini et l'autre un parti néo-nazi, avec un passé douloureux dans les deux pays.
Vous parlez des Fratelli d'Italia, c'est ça?
Bettoli était une admiratrice de Benito Mussolini et ses néo-nazis étaient des admirateurs du nazisme. Enfin, c'est de là qu'on vient quand même. C'est bien de dire que tout ça c'est formidable, embrassons-nous Folleville, mais c'est...
Bon. Je ne crois pas avoir dit ça.
Non mais j'entends bien, mais on voit bien la couleur générale de votre propos. Alors ensuite, moi je ne crois pas que ce soit la question centrale soit simplement l'éléphant de l'immigration. Ça existe. Et d'ailleurs, la première ministre sortante en a pris conscience. Mmh. Et je salue, à mon avis, il est tardif, je salue le virage réaliste, si j'ose dire, des sociaux-démocrates suédois. Oui. Au Danemark, ils l'ont fait. En Autriche, ils l'ont fait. Et je rappelle qu'il y a quand même, en France, c'est vrai que ça fait un peu étrange, il y a quand même beaucoup de social-démocratie qui sont à la fois dans les principes sociaux et à la fois, finalement, dans la fermeté sur les questions de sécurité ou d'immigration. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Me semble-t-il que la montée des populistes, puisque je suis d'accord qu'il y a une évolution populiste, c'est l'affaissement du consensus bruxellois en Europe. C'est-à-dire que la droite, qui a été largement associée finalement à un consensus européen, a tendance à s'affaisser. Alors en Italie, on voit bien que l'Italie hésite. Hein. D'un côté, c'était le gouvernement fasciste précédent, puis, puis les technocrates de Mario Draghi, et on est dans ce consensus. Alors pourquoi le catalyseur fonctionne aujourd'hui? Je pense que c'est un couple. D'ailleurs, en Suède, c'est le cas. La première ministre socialiste a demandé l'intégration à l'OTAN. Hein, et là aussi, est-ce que c'est...
Sur fond de guerre
en Ukraine.
Et les démocrates de Suède...
Et, attendez, je termine ma phrase, même si je suis un peu long, mais je suis désolé, il faut quand même analyser. Et l'hyperinflation qui sape les bases populaires du pouvoir d'achat et qui peut, dans un réflexe un peu rapide, être... finalement imputé à Bruxelles et aux politiques du consensus.
Bon, vous avez raison, il faut élargir un petit peu, il y a plusieurs raisons.
Je suis désolé, j'essaie d'analyser. Non,
mais alors, on est quand même dans cette situation. Bon, puisque vous entrez un petit peu, moi je vais le dire aussi, c'est que la première ministre suédoise, elle s'appelle Magdalena Andersson.
Absolument.
Son parti arrive en tête de ces élections législatives, elle fait à peu près 30%, c'est le plus haut score d'ailleurs enregistré par les sociaux-démocrates. Le problème étant que ses alliés traditionnels, les écolos, la gauche un peu plus radicale, eux sont extrêmement faibles, ce qui permettrait à cette union des droites de prendre le pouvoir. Alors, vous avez un peu balayé la question de l'immigration,
mais
François.
On peut revenir, hein. Moi, j'y reviendrai sur
le fond.
Non, j'y
reviens, parce que ce qui se passe aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a 5 mois, vous avez des émeutes extrêmement fortes dans des quartiers très islamisés en Suède, et ça va frapper l'opinion publique suédoise.
Bah, il y a 3 éléments. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un changement démographique majeur. Il faut voir une ville comme Malmö qui a changé complètement de paysage. Et pour peu qu'on ne croit pas qu'un pays est absolument indifférent à la population qu'il compose, ce changement démographique a des effets politiques. Plusieurs Suédois se disent, est-ce que la Suède est encore la Suède? Disons-le, une formule un peu dure. Ensuite, il y a la question des émeutes. Vous avez évoqué la question de l'insécurité en tant que telle. La question de l'insécurité est très réelle. Ce qu'on appelle les no-go zones, avec le vocabulaire américain, ça existe en Suède aussi. Et le troisième élément, vous l'avez mentionné, c'est la question de l'islamisme. La question de l'islamisme qui progresse dans un pays. Il ne faut pas l'oublier, les pays scandinaves étaient des pays qui étaient soucieux, je dirais même pas de leur cohérence, mais de leur homogénéité culturelle. C'était des pays qui trouvaient la force de la social-démocratie dans ces pays, on a tendance à l'oublier, c'est la profonde unité nationale qui venait d'un pays très homogène culturellement. Dès lors que les conditions de cette solidarité s'effritent, dès lors que cette homogénéité culturelle s'est fracturée, et pas en quelques décennies, en quelques années, le mouvement de bascule a été très rapide. Ensuite, la Suède a payé particulièrement cher la vague migratoire de 2015, mais tout ça crée un choc politique et il faut une force pour être capable de le canaliser. On peut se désoler, soit dit en passant, que ce soit les démocrates de Suède. Je note que les sociaux-démocrates, eux, ont cherché à nommer cette réalité, faire cette synthèse entre la social-démocratie et la protection identitaire.
Je vais le dire, la première ministre social-démocrate a eu des mots qu'on n'a jamais entendus dans la bouche d'un président ou d'un premier ministre en France. Elle disait, après les émeutes, une telle ségrégation s'est installée en Suède que désormais le pays est compartimenté en sociétés parallèles.
J'entends tout ce que vous dites, mais si vous voulez, le problème c'est que les Suédois, c'est des Européens qui nous ressemblent, donc on pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a un phénomène en Scandinavie qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'ils ont historiquement une démographie de la population endogène, si j'ose dire, qui est très faible. Et ils ont le plein emploi en même temps. Donc la Finlande, qui est le modèle à la page sociale de faire travailler ses seniors, ne le fait pas par vertu, le fait par nécessité. Oui. On maintient les seniors parce qu'il n'y a pas de mouvement migratoire.
Allemands.
Absolument, mais ils n'avaient pas la capacité, parce qu'il y a beaucoup moins d'immigrés qui veulent venir en Finlande que dans des pays, si j'ose dire, comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Donc ils l'ont fait par nécessité. Et donc, ce choix de l'immigration, vous dites, finalement, c'est la dissolution culturelle, etc. Non, c'est un choix de nécessité économique. Donc quelle est l'alternative, les choses, pour moi, finalement ne sont pas claires. Hein, et d'une certaine manière, s'il n'y avait pas eu toute cette immigration, alors maintenant il y a des problèmes de cohabitation qui sont évidents, moi je ne les nie pas, je ne les ai jamais niés, vous connaissez le... je ne sais pas où en serait finalement la Suède. Alors ce modèle-là dysfonctionne. Le deuxième facteur, me semble-t-il, parce qu'on peut toujours stigmatiser la social-démocratie, mais vous ne l'avez pas fait, qui serait comme ça angélique, c'est que si un parti institutionnel qui se confond même avec la culture politique suédoise, c'est le Parti social-démocrate. Donc quand vous avez une implosion de la droite dite classique, eh bien, c'est la droite populiste ou l'extrême droite qui prend le relais. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de déroute de la social-démocratie. Et attendons le second tour, parce que ce que j'en vois des experts politiques, c'est que cette coalition droite et extrême droite, ce n'est pas une vague qui va tout submerger. Ouais, c'est pas clair.
Les résultats finaux dépendront du vote des Suédois de l'étranger. Évidemment, enfin, on attend ça. Ce sera pour, dans la journée de demain, je crois.
Alors, il y a un facteur qu'on doit garder à l'esprit, qui me semble essentiel, c'est à quel moment on considère qu'un parti dit populiste, qui quelquefois déracine trop, c'est les démocrates de Suède, il n'y a aucun doute par rapport à ça, oui. À quel moment, on pourrait dire la même chose avec le RN en France, avec le parti de Mme Meloni en Italie, à quel moment on considère que ce parti a opéré une mutelle qu'il est désormais intégré au périmètre démocratique? Ou est-ce qu'on considère qu'il est à jamais marqué par ses origines?
Mais j'ai fait que rappeler les choses. Ça vous a dérangé,
je pose la question parce que je vois d'un pays à l'autre la volonté d'intégrer ou non des partis qui ont quelquefois ces origines troubles, pour reprendre ainsi ce terme. D'un pays à l'autre, cette volonté change. À quel moment on se dit il a suffisamment évolué, il a suffisamment... Il chasse ses radicaux.
À quel moment on considère que le cordon sanitaire
doit tomber? Et ce que je constate, c'est que quelquefois, ce n'est pas qu'une question de morale et de vertu, mais je le disais plutôt, de système électoral. Le système électoral force quelquefois des gens à s'entendre au-delà de ce qu'ils croient être leur morale et circonstances.
Si je puis me permettre, la façon dont parce qu'il y a un système juridique, il y a la façon dont les gens s'en saisissent. Jusque très peu en France, on apprenait qu'on avait un parlementarisme rationalisé et que quelque part, le président décidait de donner le cap et puis l'Assemblée soumettait sauf en cohabitation. Or, on n'a pas changé un texte de loi, mais on a basculé en cohabitation. Enfin, on a basculé avec un régime parlementaire en France, en réalité.
Sans toucher à la Constitution.
Et puisque vous dites jusqu'à quel moment, j'ai pas le sentiment que, par exemple, j'en refuse d'avoir des interlocuteurs du Rassemblement National ou qu'il y ait un cordon sanitaire. Et on peut même analyser de manière fine ce qu'est mon cas.
Mais François Calfon,
je réponds à votre question.
Tout le monde n'est pas comme vous.
D'accord, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais on peut même analyser de manière fine. Et c'est clair, que M. Le Pen prend ses origines, le père prend ses origines dans l'extrême droite. C'était l'éditeur de chants de la Waffen-SS, c'est qu'il était un admirateur assumé de Benito Mussolini, qui était incompris
antisémite.
Mais laissez-moi juste finir, je sens que ça vous dérange. Et que Marine Le Pen, je le dis aussi, n'a jamais eu, à ma connaissance, finalement, des mots ou une pensée antisémite assumé, bien au contraire. Et pour autant, je pense son programme nocif, parce qu'il est un programme du bouc émissaire, voilà.
Alors, on ne transposera pas le débat intégralement sur la France.
Mais
je constate simplement que c'est assez amusant ce retour aux origines. Est-ce qu'on rappelle sans cesse à M. Mélenchon ses origines trotskistes?
Est-ce qu'on
rappelle sans cesse au Parti Socialiste ses errements historiques? Il y en a eu quelques-uns. À un moment donné, il faut définir les partis en fonction du temps présent. Et le temps présent, le contexte d'apparition des partis populistes en Europe, il remonte davantage aux années 90, aux années 2000 qu'aux années 40 ou 50. Enfin, aux 30 ou 40, pardonnez-moi. Le contexte d'apparition, c'est la crise migratoire, c'est la dislocation des sociétés occidentales. Et encore une fois, quand on le voit en Suède, c'est un pays à fort consensus politique, mais aucun pays ne peut vivre dans un consensus politique permanent. Le besoin de l'alternance est consubstantiel à la démocratie. Il vient de se manifester.
Le mot de la fin,
moi, j'en appelle un socialisme du réel. Le socialisme du réel, c'est maintenir un modèle qui finalement fonctionne. La Scandinavie assure le bien-être de sa population. Mais c'est aussi prendre en compte, finalement, des coups de canif dans le consensus social pour faire en sorte que les conditions du vivre ensemble soient réellement garanties. C'est-à-dire qu'on ne mette pas un bandeau, d'ailleurs ce que n'a pas fait la première ministre suédoise, sur les sujets du réel, comme l'insécurité.
Les conditions du vivre ensemble, la cohérence culturelle, vous direz les Suédois.
Bon. Merci Mathieu Bock-Côté, merci François Calfon, débat très stimulant entre vous deux. Merci à tous les deux. 8h57 sur Europe 1. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
L'actu est dans Culture Média ce matin. Dites-nous tout.
C'est rien. de le dire, je regardais ce matin les tendances Twitter. En tête, c'est complément d'enquête. On est mardi matin, complément d'enquête, c'était dimanche soir et c'est toujours le sujet qui intéresse le plus les gens. Pourquoi ? C'était un reportage de l'émission consacré à la télé-réalité, aux errements, au placement de produits par les influenceurs et les influenceuses. La papesse, telle qu'elle est présentée par la presse, c'est Magali Berda qui dirige la société Sean Evans. 60 salariés, elle est mise en cause très fortement par Booba sur les réseaux sociaux. Elle vit un harcèlement, elle donne une conférence de presse demain. Que va-t-elle raconter ? Elle nous le dira tout à l'heure, elle sera dans ce studio, Magali Berda. Au sommaire également, un documentaire consacré aux prêtres, au célibat et à leur paternité. Ça passe sur Arte ce soir. Nous serons avec les deux réalisateurs, Éric Colomer et Rémi Bénichou, et puis l'écrivain Nicolas Rey pour son premier roman de pure fiction, ouais, et non pas de l'autofiction où il se raconte lui-même. Là, c'est un vrai roman avec du suspense. Il y a presque une histoire policière, un crime parfait. Ça s'appelle Crédit illimité. Ça sera notre deuxième heure.
Et Nicolas Carreau a beaucoup aimé.
Oui.
Merci beaucoup, Philippe. Bonne émission. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain matin, 7h. Bonne journée.